Vous êtes sur RTL.
Merci, à demain.
À demain, dès 4h30.
Si jamais vous en doutiez, bien la cinquième vague du Covid est bien là. Mais en même temps, grâce à la vaccination, notre pays a aujourd'hui des armes pour affronter l'épidémie. Nous vous proposons donc une matinale largement consacrée à cette cinquième vague qui inquiète d'ailleurs l'Élysée. Et le président de la République nous dira Olivier Bost dès 7h10 dans son éditorial politique. Les chiffres, les détails et les toutes dernières informations grâce à notre spécialiste santé Odile Pouget. Il sera 7h15. On ne connaît ni la durée ni l'amplitude de cette cinquième vague, mais il y a de sérieux espoirs de la contrôler, nous dira Odile. Et puis à 8h20, nous débattrons autour de cette question. Faut-il réinstaurer la gratuité des tests? Non, nous dira le député médecin LREM Thomas Meynier. Face à lui, l'épidémiologiste Pascal Crépet, qui n'est pas du tout d'accord. Si vous aimez vous faire peur, nous vous emmènerons en Chine avec RTL autour du monde à 8h35. On nage sur place en pleine paranoïa à cause de la pandémie. Enfin, l'invité politique de notre matinale est ce matin la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, candidate au Congrès des Républicains. Elle répondra aux questions d'Alba Ventura dès 7h40. Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ces élèves harcelés tous les jours sur les réseaux sociaux.
50 appels par jour d'élèves en souffrance, en très forte hausse, alors que se déroule aujourd'hui la journée nationale contre le fléau du harcèlement scolaire. Les regrets des non-vaccinés, vous entendrez dans ce journal le témoignage glaçant d'un homme de 35 ans, hospitalisé à Argenteuil alors que la cinquième vague prend de l'ampleur. Dans ce journal également, les huîtres volantes de Rungis, les drones se chargent désormais de plus en plus des livraisons. Le réquisitoire très sévère hier du procureur au procès d'Éric Zemmour et la bande dessinée de Kylian Mbappé qui cartonne 150 000 exemplaires déjà vendus.
La politique, Olivier Bost.
L'élection présidentielle doit nous projeter vers l'avenir et voilà que le Covid nous ramène violemment en arrière.
Vos explications dès la fin du journal.
RTL Matin.
Et on commence donc ce journal avec le harcèlement scolaire qui gâche la vie de 700 000 enfants tous les ans en France. Un élève sur 10, parfois jusqu'au drame. En octobre dernier, à Mulhouse, une adolescente de 14 ans, Dina, s'est suicidée. C'est la journée donc aujourd'hui nationale contre ce fléau. Mathieu a 22 ans aujourd'hui et il reste profondément marqué, traumatisé par ses années de souffrance à l'école.
J'ai été harcelé parce que je suis en surpoids et je suis homosexuel. Il y avait des coups et des insultes. J'en suis venu à me mutiler et à commettre 3 tentatives de suicide. En quatrième, j'en ai parlé avec mes parents. On a dû aller voir les psychologues justement suite à mes tentatives de suicide. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est très renfermé, qui est très timide. J'ai encore beaucoup de soucis à régler psychologiquement, je veux dire. J'avais besoin d'écrire ce que j'avais sur le cœur, ce que je ressentais au fond de moi, mes émotions, mes sentiments. Je dis souvent qu'aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, mais que tout est toujours dans ma tête.
Témoignage RTL recueilli par Léonard Cassette. Alors, la particularité cette année a été la très forte hausse du cyberharcèlement. Quand les établissements étaient fermés, les victimes continuaient d'être attaquées sur les réseaux sociaux. La plateforme dédiée au 30-18 n'a jamais reçu autant d'appels. Une hausse de 44%, Marie Guerrier.
Oui, 50 appels reçus par jour au 30-18. Une hausse sans précédent des sollicitations, note la plateforme téléphonique, qui a constaté un pic de violence et d'agressivité en 2020. Une amplification des phénomènes déjà existants, chantage à la webcam, insultes sur les réseaux sociaux, publication de photos dénudées sans consentement. 20% des jeunes disent avoir déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement. Parmi ceux qui contactent le 30-18, la part des 15-17 ans est en forte hausse. Sur les premiers mois de 2021, les appels ont continué d'augmenter. Peut-être aussi parce que le numéro est mieux identifié désormais et son efficacité prouvée. La plateforme peut intervenir auprès des réseaux sociaux pour supprimer un contenu illégal ou préjudiciable en quelques heures, grâce à une procédure de signalement accélérée. C'est le cas pour un appel sur 5. Et les signalements sont transmis à l'éducation nationale, aux référents académiques, quand l'origine du cyberharcèlement est scolaire.
Merci Marie Guerrier pour RTL. Donc on le rappelle, si vous êtes victime de harcèlement, le numéro c'est le 30-20 ou le 30-18, donc pour le phénomène spécifique qu'on vient d'évoquer du cyberharcèlement. Et puis ne ratez pas 7h15, reportage RTL en Finlande de Pierre Herbulot, là-bas où 90% des écoles ont mis en place un programme éducatif spécifique. Et et ça marche.
7h03, la cinquième vague de Covid continue de monter en France.
20 000 cas à nouveau détectés hier. Le taux d'incidence a augmenté de 40 à 50% par semaine au cours des 15 derniers jours. Et cette vague touche en majorité les non-vaccinés, surtout pour les formes graves. Le constat est en effet sans appel dans cet hôpital d'Argenteuil en région parisienne. Reportage de Valentin Boisset.
Sur les portes de l'unité, un écriteau indique stop, il faut s'équiper. Car à l'intérieur, il y a 12 patients Covid. Vitaly, 35 ans, n'est pas vacciné.
C'est très dur. Je regrette de pas m'avoir vacciné.
Positif au Covid depuis fin octobre, son état s'est dégradé la semaine dernière. Il porte désormais un imposant masque à oxygène en permanence. Sa femme doit assurer sa toilette.
Je me pensais trop fort. Je conseille tout le monde de se vacciner.
Quelques minutes de discussion, puis Vitaly est trop essoufflé pour continuer.
Allez, ça va aller, vous inquiétez pas.
Je pensais que c'était pas pour lui, que c'était pour les autres. Comme il était jeune et en bonne santé, il pouvait pas faire une forme grave.
Catherine Le Gall dirige ses urgences ici. La cellule de crise s'est réunie en début de semaine. Quelques ouvertures de lits sont prévues. Les unités Covid pourraient aussi faire leur retour. L'organisation est donc rodée, mais le constat est amer.
Il y a des gens qui ont peur d'utiliser le terme de vague. Si, c'est une vague. En réanimation, il y a 7 malades Covid, un de 31, de 27 ans. Pour l'intégration, réalité d'entre eux, à l'exception d'un, mais qui a une immunodépression non vaccinée. On est quand même passé de 3 malades il y a 6 semaines à 10 malades. C'est une vague de gens non vaccinés.
Au Covid s'ajoute la grippe, puis la bronchiolite. Les soignants se préparent donc ici à des semaines difficiles.
Merci beaucoup Valentin Boisset. Alors effectivement, le gouvernement estime avoir tout de même de bonnes raisons de penser que cette cinquième vague n'emportera pas tout sur son passage grâce à la vaccination et en appelant également les Français à être plus stricts sur les gestes barrières.
Je vous le rappelle, le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera ce soir l'invité d'RTL Soir à partir de 18h avec Julien Cellier et il répondra à toutes vos questions au 3210.
En Belgique, l'inquiétude est beaucoup plus forte face à un nombre de cas nouveaux records là-bas. Le masque redevient obligatoire en intérieur dès l'âge de 10 ans et dès la semaine prochaine, le télétravail redevient également obligatoire 4 jours par semaine.
Allez, direction Rungis maintenant où les drones font leur apparition.
Oui, ils sont de plus en plus utilisés pour les livraisons dans ce qui est le plus grand marché d'Europe. On rappelle que Rungis est plus grand que Monaco, que 1000 entreprises et commerçants s'y côtoient tous les jours. Arnaud Touche, vous avez donc vu des huîtres volantes. Reportage.
Sur une cible rouge et blanche posée sur le toit d'un conteneur, le drone est prêt à accueillir la bourriche d'huîtres.
Au départ, on avait pensé à un homard, mais le homard, il est cardiaque, donc on a eu peur qu'il tenait pas la route. Les huîtres, ça résiste à tout.
Véronique Gillardeau, patronne de la maison du même nom, regarde ces huîtres s'envoler au-dessus de Rungis.
Il y a quelques années, on en avait parlé de ça, mais en rigolant.
Et désormais, c'est pour de vrai. Le drone peut livrer n'importe où sur le marché, entre commerçants. Et pour elle, cela peut servir à bien d'autres choses.
Ça serait par exemple des documents sanitaires quand on a besoin d'export. Où il faut aller chez le service vétérinaire, faire la queue et tout ça. Bah, si ça peut se mettre avec un drone et être livré dans une heure qui suit, pour moi, ça serait top, quoi.
Éric Gauthier est le cofondateur de Dragonfly Pads qui propose ce service. Il a obtenu les autorisations de l'aviation civile et rêve désormais de couloirs aériens pour drones.
Nous sommes dans un endroit très dense en population. Nous travaillons la nuit. Nous avons jusqu'à 20 000 camions qui rentrent sur le marché. Dans cet espace-là, on va pouvoir transporter au maximum 5 kilos. Donc on va transporter sur 1, 2, 3, 4 kilomètres, mais on peut aller très très loin.
En test jusque-là, ce nouveau moyen de transport sera proposé officiellement aux commerçants à partir d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Arnaud Touche pour RTL. Le cri d'alarme du Secours catholique. Entre 5 et 7 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire en 2020 selon l'organisme. C'est une humiliation que notre pays inflige à près de 10% de sa population, souligne ce matin la présidente de l'association.
Une pause et dans un instant 10 000 euros, hein, requis contre Éric Zemmour et les mots très sévères de la procureure à son encontre. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin. RTL Matin.
La suite du journal avec Olivier Bois tout de suite. Éric Zemmour n'était pas là hier pour entendre les mots extrêmement sévères de la procureure à son encontre.
Oui, le polémiste candidat probable à la présidentielle était jugé pour ses propos sur les mineurs étrangers isolés qu'il avait qualifiés sur CNews de violeurs et d'assassins notamment. La procureure a requis 10 000 euros d'amende à son encontre, Guillemette Franquet.
Oui, la procureure de la République ne mâche pas ses mots à l'encontre d'Éric Zemmour. Ses propos sont un conditionnement à la haine. Il suggère une détestation très forte. Selon elle, si le polémiste parle des mineurs isolés étrangers, il vise en réalité la population immigrée dans son ensemble. Les qualificatifs méprisants et outrageants, le champ lexical de la guerre, rien n'est laissé au hasard dans le discours d'Éric Zemmour, explique la procureure. Ce n'est pas un accident de langage, tonne-t-elle. Il a dépassé les limites de la liberté d'expression. L'avocat d'Éric Zemmour prend à son tour la parole, animé d'une colère froide, calculée. Pour Maître Pardo, impossible de parler de discrimination envers les mineurs non accompagnés, car ils ne forment pas une communauté en soi. Vu que c'est Éric Zemmour, on peut dénaturer la poursuite, fustige-t-il. Maître Pardoux invite à regarder la réalité en face, celle d'une délinquance catastrophique chez ces mineurs. Puis il explique que la pensée est très partagée en France d'Éric Zemmour et que l'islamisme est nourri par l'immigration. Est-ce qu'il faut pénaliser une opinion, une analyse, s'interroge-t-il. Et de balayer, il n'y a pas une once de racisme chez Éric Zemmour.
Merci Guillemette Franquet du service police-justice d'RTL. L'ancien prêtre Bernard Prénat a passé sa première nuit en prison près de Saint-Étienne. Il avait été condamné l'année dernière à 5 ans de prison ferme pour avoir agressé sexuellement des scouts à 76 ans. Contrairement à ce que réclamait son avocat, son état de santé a donc été jugé compatible avec une incarcération. La proposition de loi contre la maltraitance animale doit être adoptée aujourd'hui par le Parlement. Au menu de ce vaste texte, l'interdiction des animaux sauvages, notamment dans les cirques, ou encore l'interdiction de vendre des chiots et des chatons dans les animaleries. Et puis à l'étranger, le Canada décrète l'état d'urgence et envoie l'armée en renfort dans l'ouest du pays, en Colombie-Britannique. Les pluies torrentielles du début de semaine dans la région ont provoqué de vastes inondations et des glissements de terrain. Une personne est morte et des milliers d'habitants ont dû être évacués.
Il est 7h10, Kylian Mbappé est aussi efficace en librairie que sur les terrains de foot.
Ah oui, 150 000 exemplaires de sa bande dessinée autobiographique « Je m'appelle Kylian » ont d'ores et déjà soit été vendus, soit réservés. Il est sorti le 12 novembre et le joueur du PSG se charge lui-même de la promotion sur le terrain. Il était hier à Bondy, en Seine-Saint-Denis, dans sa ville, pour rencontrer les jeunes de son club d'enfance. Et vous avez lu cet ouvrage, Laurent Marsic.
Et 1, et 2, et 3, Poussez Madame. C'est par ces mots et une référence évidente à la Coupe du Monde 98 que débute le roman graphique de Kylian Mbappé, la naissance du petit Kylian, bercé au foot pendant toute son enfance. Une BD pour se raconter sous les crayons et les pinceaux du dessinateur Faro. Hier à Bondy, Kylian Mbappé est donc retourné dans son premier club, celui de son enfance, à la rencontre des jeunes, présenter sa BD. Une BD et pas un roman, a expliqué le footballeur à nos confrères d'M6.
Parce que je voulais que ça parle à tout le monde. Je voulais pas un bouquin qui parle qu'aux adultes et le but c'est de faire rêver.
223 pages où il parle de ses rêves, de sa réussite fulgurante et de ce qui a toujours été une passion virant parfois à l'obsession, le ballon rond. Le foot.
Quand on aime, on compte pas, comme on dit. Et moi, j'étais vraiment passionné. J'ai toujours aimé le foot. C'est toute une histoire derrière. C'est toute une famille. C'est tout plein de gens qui m'ont aidé. C'est aussi la chance. J'essaye de raconter tout ça dans cette BD.
Tirage canon pour cette bande dessinée. Vous l'avez dit, 300 000 exemplaires.
Merci beaucoup, Laurent Marsic.
Chiffre d'édition absolument exceptionnel. On termine avec les courses. Elles ont lieu à Fontainebleau.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 16, l'As, le 14, le 10, le 9 et le 4, la dernière minute c'est le 16 et notez que le 8 est non partant finalement.
Oui, et ce journal de 7h nous était proposé par Olivier Bois. 7h12, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
La 5e vague du Covid est là, on va détailler les chiffres et les toutes dernières informations dans un instant avec Odile Pouget, mais politiquement personne n'a envie d'en reparler Olivier.
Bah oui, parce qu'avec ce truc, aucun calcul politique n'est bon. Les parano vont se dire qu'Emmanuel Macron veut nous enfermer, nous contrôler, oui certains le pensent. D'autres pensent ou espèrent au contraire que le gouvernement va se retrouver enlisé dans cette crise. Rien n'est bon. Mais voilà, nous sommes bel et bien dans une 5e vague, c'est le professeur Delfraissy qui l'a dit. Je sais combien cette situation entraîne de la lassitude, a reconnu quelques heures plus tard Gabriel Attal hier, le porte-parole du gouvernement qui semblait tellement sincère que cela donnait aussi le sentiment qu'il parlait d'abord de lui, de la lassitude. À ce niveau-là, le mot est faible. Plus personne, en fait, n'a envie d'entendre parler de Covid.
C'est donc aussi lassant pour le gouvernement ?
Oui, et ce n'est surtout pas si évident que ça. Le gouvernement doit tout à la fois nous inciter à nous faire revacciner et à refaire attention. Et en plus, sans nous faire peur, il ne doit rien exclure par principe. Les affirmations ont été si souvent démenties par la suite que l'emploi des conditionnels est devenu une règle absolue. Et encore, même dire par exemple « il n'est pas envisagé de reconfinement », chez pas mal de gens, ça résonne comme « il y aura un confinement, ils sont simplement en train de préparer les esprits ». Comme il ne devait pas y avoir de passe sanitaire pour les restaurants, pas de vaccination des enfants, pas de troisième dose sur le passe, et j'en passe.
Mais est-ce que le gouvernement sait vraiment où il va ?
Comme d'habitude, nous observons ce qui se passe chez nos voisins. Mmh. Certains pays encaissent la 5e vague sans souci. Dans d'autres, comme l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique maintenant, l'hôpital n'arrive plus à faire face. En France, résume un ministre, on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber. Nous avons déjà entendu des propos plus rassurants. Oui. Et pour être un tout petit peu optimiste, Gabriel Attal l'a dit hier, nous traversons désormais chaque vague mieux que la précédente. Merci les vaccins.
Donc n'agitons pas le pire, mais restons vigilants, c'est ça le message.
De toute façon, explique un conseiller d'Emmanuel Macron, tout reconfinement, tout enfermement ne serait plus possible. possible. Donc il faut que ça se passe, il faut que ça passe comme ça. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ont repris dimanche dernier lors des longs débats LR l'idée de la solution autrichienne, un reconfinement en cas de besoin des non vaccinés. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon a demandé le retour de la gratuité des tests. Voilà de quoi provoquer des débats et surtout de ramener le sujet à l'Élysée. Or, Emmanuel Macron n'a pas du tout envie de replonger là-dedans, explique l'un de ses proches. Le président, pas encore complètement candidat, veut surtout avancer, nous projeter vers l'avenir. Et le Covid nous ramène tous en arrière.
Merci beaucoup Olivier Bost et bonjour Odile Pouget.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors, cette cinquième vague est bien là. Y a-t-il des raisons d'être inquiet ?
Disons qu'il faut être vigilant. On ne connaît ni la durée ni l'amplitude de cette cinquième vague. Ce qui est certain, c'est que tous les indicateurs sont à la hausse, notamment ce taux d'incidence supérieur à 100 pour 100 000 habitants sur l'ensemble du territoire. C'est deux fois le seuil d'alerte. Par ailleurs, 6,5 millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées, dont 1,2 million de plus de 65 ans, les plus à risque de développer des formes graves.
D'ores et déjà, certains départements ont pris les devants pour éviter une flambée de l'épidémie, Odile.
Oui, retour du port du masque obligatoire à l'extérieur, en centre-ville, comme à Foix, dans l'Ariège, ou dans certaines zones piétonnes, à Blois, dans le Loir-et-Cher, par exemple, mais aussi à l'intérieur, malgré le pass sanitaire, dans certains bars et restaurants. C'est le cas du Rhône, de la Loire-Atlantique ou du Bas-Rhin.
On parlait des points inquiétants. Quels sont les signes rassurants ?
Alors d'abord, l'efficacité prouvée du vaccin pour empêcher les formes graves. Une étude publiée mardi par Santé publique France démontre que la vaccination a fait baisser les hospitalisations de 29% chez les plus de 75 ans et de 58% pour la tranche d'âge 50-64 ans.
Moins de formes graves et donc des hôpitaux qui résistent.
Oui, on l'a d'ailleurs constaté lors de la quatrième vague cet été. Aujourd'hui, selon les dernières modélisations de l'Institut Pasteur, on pourrait atteindre courant décembre 1200, 1400 entrées quotidiennes à l'hôpital. C'est évidemment beaucoup, mais c'est nettement moins que lors des premières vagues. En avril 2020, on avait dépassé les 4000 admissions par jour.
Merci beaucoup Odile Pouget. Je vous rappelle ce rendez-vous ce soir sur notre antenne dès 18h. Olivier Véran, ministre de la Santé, sera l'invité exceptionnel de Julien Cellier dans RTL Soir et vous pourrez poser toutes vos questions au ministre en nous appelant au 3210. Et dans un instant, direction la Finlande.
RTL événement.
C'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, moins de deux mois après le suicide de la petite Dina dans le Haut-Rhin. RTL événement s'intéresse ce matin à une méthode qui a fait ses preuves, le fameux programme Kiva, développé en Finlande depuis 2006 et qui intéresse le gouvernement français. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Vous êtes rendu en Finlande pour découvrir cette méthode qu'on qualifie parfois de miraculeuse.
Des gilets jaunes fluo aux quatre coins de la cour de récréation, ils sont portés par des enseignants et des animateurs pour les rendre bien visibles. Dessus, un logo représentant quatre enfants main dans la main et une mention « Kiva ». C'est le nom de ce programme anti-harcèlement adopté par 90% des établissements scolaires de Finlande, comme l'école primaire Rajakula à Vantaa, en banlieue d'Helsinki. Päijebi Viljama, la directrice, garde un œil sur la chorale. Le fondement de la méthode Kiva, explique-t-elle, c'est la prévention.
Pour prévenir le harcèlement, on enseigne régulièrement ce qu'on appelle les compétences sociales, les émotions et surtout l'interaction. Pourquoi on est triste, pourquoi on est en colère, comment réagir, comment se sentir mieux. Ce sont des choses qui s'apprennent. On fait ce type de cours tous les 15 jours, pour tous les élèves de toutes les classes de l'école. Comme ça, on est sûr que tout le monde apprend la même chose en même temps.
Des cours qui sont adaptés à l'âge des enfants. En primaire, les élèves vont devoir par exemple reconnaître des cas de harcèlement sur des jeux de cartes. Plus grand, ce sera sur des films, voire même des jeux vidéo. Cette sensibilisation est la clé de tout pour Elia Misuka. Elle dirige le syndicat finlandais de l'éducation.
Pour nous, chaque élève doit comprendre qu'il a un rôle à jouer, même ceux qui ne participent pas directement au harcèlement ou qui ne sont pas victimes. Tout le monde doit être acteur. Par exemple, un enfant témoin qui ne dit rien, finalement, il est complice du harceleur. C'est ce que nous leur apprenons.
Mettre en place un plan de lutte contre le harcèlement est une obligation pour chaque école en Finlande. C'est marqué dans la loi et Kiva a prouvé son efficacité. Des études montrent que les cas baissent de 40% après 9 mois d'utilisation du programme.
Donc le harcèlement baisse, mais il ne disparaît pas totalement.
Non, c'est vrai, mais c'est là que la deuxième phase du programme Kiva entre en jeu, la gestion du harcèlement pour limiter la récidive. Le traitement des cas est très spécifique selon leur gravité. Quand c'est léger, une médiation est organisée entre élèves avec un enseignant, mais pas celui des classes concernées. Les parents sont également prévenus, mais pas impliqués pour éviter d'envenimer les débats. Une deuxième réunion est ensuite programmée 15 jours plus tard. Pour les cas graves, Une unité spéciale des forces de l'ordre est sollicitée. La police de l'école, Mathias Kemener, est le directeur des études au lycée franco-finlandais d'Helsinki.
Ce sont des policiers qui sont entre guillemets formés et spécialisés. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. C'est une personne référente dont c'est le métier. Réellement, pour nous, pour les établissements scolaires, c'est un soutien important. On sait qu'on ne s'adresse pas nécessairement à l'entité police vue de manière répressive, mais on s'adresse à une entité de la police qui connaît, entre guillemets, les difficultés, les problématiques du milieu scolaire.
Et c'est donc une méthode qui intéresse la France, Pierre.
Oui, à l'université de Turku, 170 km à l'ouest d'Helsinki, berceau du programme Kiva, un colloque sur les agressions.
Dans la tête de l'autre. Ouais. Certains le sont.
Ouais, mais pas tous.
Mais pas tous.
Et donc c'est un phénomène de groupe alors ?
Celle qui pose les questions, c'est Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Elle a fait le déplacement jusqu'en Finlande pour renforcer la stratégie française.
Je vous parlais tout à l'heure, de, même si je n'aime pas le mot, de ce travail qui est fait avec la police, ils appellent ça la police de l'école, c'est intéressant. Je vous parlais du travail sur les compétences émotionnelles, c'est intéressant. Je vais revenir de ce voyage officiel avec ces idées, ces propositions que je vais documenter puisque j'ai demandé un certain nombre d'informations et que je veux faire connaître le plus tôt possible. Là, il faut vraiment qu'on ait des actions fortes et immédiates.
Un modèle finlandais performant mais pas infaillible, notamment face au cyberharcèlement quasi inexistant à la naissance de Kiva dans les années 2000. Les jeunes finlandais très indépendants ont aujourd'hui presque tous un téléphone portable dès l'âge de 7 ans. Mais déjà, un nouveau modèle émerge des terres froides de Laponie à Rovaniemi, encore plus axé sur la prévention et qui fait du harcèlement en ligne son cheval de bataille.
Merci beaucoup Pierre Herbulot. Votre reportage sur la méthode Kiva est à retrouver sur le site rtl.fr et elle soulève effectivement des espoirs.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h23. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est l'heure de notre pépite musicale, on vous écoute.
Alors on écoute David Bowie pour commencer. The Man Who Sold the World, écrit et composé par Bowie, titre de 70 qu'on trouve dans l'album du même nom. Et c'est un 18 novembre que cette chanson a entamé une seconde vie. Il y a pile 28 ans, le 18 novembre 1993, le groupe Nirvana poussait les portes des studios Sony à New York pour enregistrer en traînant les pieds un concert acoustique pour la chaîne MTV. Les ventes de leur album du moment étaient décevantes et on leur avait calé cette émission pour relancer le disque. Le chanteur Kurt Cobain ne voulait pas jouer, il était au plus mal. Au final, ce qui s'annonçait comme un calvaire s'est transformé. Oui, voilà, mais c'est toujours comme ça, au final, ce qui s'annonçait comme un calvaire s'est transformé en moment de grâce. Nirvana a enchaîné les morceaux d'une traite. Ses chansons et quelques reprises, parmi lesquelles The Man Who Sold the World de Bowie. Une reprise qui a eu tellement de succès qu'aujourd'hui toute une génération croit qu'il s'agit d'un titre de Nirvana. C'est notre pépite du jour quand Kurt Cobain et son groupe revisitaient magnifiquement Bowie. Acoustique de Nirvana, enregistré donc le 18 novembre 1993, ne devait pas sortir sur disque, mais après la mort brutale de Kurt Cobain en avril 1994, les membres du groupe y ont vu un testament et l'ont sorti. Le disque Unplugged in New York est devenu culte. 600 000 exemplaires vendus rien qu'en France à l'époque, vous imaginez. Ça reste l'album posthume le plus vendu au monde.
Vous avez une petite sensibilité commande dans cette mettre. Un gros faible pour David Bowie, vous. Hein.
Ah, vous l'avez remarqué ?
Oui, c'est ça.
Mais je pense que je le partage, j'espère, avec beaucoup de monde.
Je le partage avec beaucoup de monde. Merci de nous faire partager vos pépites.
Merci, à demain.
Anthony Martin, qu'on retrouve dès demain matin. Les grosses têtes et la météo de Louis Badin sont à suivre sur RTL. Ça va être comment la météo ?
Ça va être un petit peu plus lumineux aujourd'hui.
Ah, bah très bien. Bah, voilà. Allez, à tout de suite.
Allô, le matin. RTL.
Oh, les matins.
Non mais je sais, on est mal.
Revivre ensemble.
RTL Matin.
Alors soyons très clairs, nos grosses têtes étaient hier à Bruxelles pour une émission spéciale et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'en Belgique, ils se sont dit que c'était peut-être le moment de parler de frites.
Les frites sont taillées carrées de 20 cm, généralement ici en Belgique, c'est ce qu'on appelle les frites Pont-Neuf. Quand elles font 2 cm de carré, ce sont des bûches. Hein? Si elles sont un peu plus fines, soit la moitié d'un centimètre...
Mais bon grand
des... Allumettes.
Allumettes.
Non, des allumettes.
Allumettes, gentilles allumettes.
Ensuite, encore la moitié des allumettes, ce sont des pailles, 0,25 cm. Oui. Oui. Et quand elles sont taillées encore plus finement...
C'est de la purée,
des
alors.
Des chips.
Eh ben non.
Les c'est... cheveux. C'est... Les cheveux d'ange.
Les cheveux d'or. Ah,
les cheveux d'or.
Merci Jean-Philippe.
Je ne savais pas qu'il y avait un nom par frite.
Ah bah ça.
Non. Si tu veux pas
frite. C'est parce qu'on les bouffe trop vite.
On ne donne pas un nom. On ne donne pas un nom à chaque frite.
Non. Ce que je veux dire, c'est que...
Oh là là, quel succès, il y avait du monde autour d'eux, ça fait beaucoup de plaisir à entendre. Retour donc dans le grand studio de Neuilly-sur-Seine aujourd'hui, cet après-midi, pour Laurent Ruquier, ses grosses têtes, autour de lui, Valérie Mérez, Stéphane Plaza, Sébastien Thoen, Laurent Baffy, Joyce Jonathan et Caroline Diamant. Louis Baudin, on vous écoute pour notre météo, et alors attention à la visibilité ce matin, on voit pas grand-chose.
On voit pas grand-chose, non. Effectivement, les brouillards sont très très fréquents, très denses, Saint-Quentin, Charleville-Mézières, Blois, Angers, La Rochelle, Angoulême, à Langres, à Saint-Girons, vous voyez, il y en a un peu partout, hein, du sud-ouest au nord, au nord-est, des brouillards avec parfois moins de 100 mètres de visibilité, donc prudent ce matin. Mais cet après-midi, ces nuages et ces brouillards devraient se lever pour laisser apparaître quelques trouées ici ou là. Alors plus belle près de la Manche, entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, dans le sud-ouest, sur les Pyrénées, sur l'Alsace ou encore entre les Alpes et la Méditerranée. Comme hier, le soleil devrait s'imposer avec un peu de mistral et de tramontane. Et puis dans les autres régions, bon, il y aura beaucoup de nuages. Puis de temps en temps, une belle surprise avec une petite trouée. Faudra en profiter, ça ne durera pas très longtemps. En revanche, pas de précipitation aujourd'hui. On peut laisser le parapluie à la maison. Et les températures, bon, on a quelques gelées ce matin à Beauvais, à Angers ou encore à Alençon. Et cet après-midi, 8 à 10 degrés dans le nord-est, 10 à 13 degrés dans toutes les autres régions et 17 à 20 encore hein, près de la Méditerranée.
La belle surprise, c'est de vous avoir tous les matins avec nous. RTL, merci. Il est 7h31.
RTL Matin, Yves Calvi.
Et tout de suite, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 18 novembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et une question ce matin, faut-il revenir à des tests anti-Covid gratuits? La cinquième vague est là, tout le monde en convient, mais depuis un mois, le dépistage est payant pour les non-vaccinés. Résultat, on est passé de 450 à 300 000 tests par jour, d'où l'idée de ne plus faire payer comme avant. Nerissa Emani a tâté le terrain dans cette pharmacie parisienne.
Se faire tester pour aller au restaurant, c'est devenu une habitude pour Clara, 45 ans. C'est la troisième fois qu'elle pousse les portes de cette pharmacie ce mois-ci.
Pour les non-vaccinés, ouais. Le test ne sera pas pris en charge, donc je vais devoir vous le faire régler.
25 euros pour un test antigénique, un vrai budget pour la mère de famille. Alors forcément, elle préférerait que ce soit gratuit.
Ça pourrait pousser les gens à se tester le plus souvent et savoir le nombre de cas positifs ou négatifs.
Je pense qu'il faudrait qu'il soit gratuit de nouveau, c'est sûr.
Laurent, lui, est vacciné.
J'ai des proches qui ne sont pas vaccinés et c'est vrai que 25 euros, ça le freine de plus en plus. Quoi.
Un avis qui fait sursauter cette cliente, également vaccinée.
C'est normal, je trouve qu'ils ne remboursent pas des tests pour les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Ils doivent assumer jusqu'au bout leurs convictions.
À côté, Ruben, le pharmacien, veut tempérer. Les tests devraient être gratuits si les cas de Covid augmentent.
Okay. Quand on a un rebond de l'épidémie, on est obligé de revenir sur cette mesure de non-prise en charge des tests pour éviter de passer à côté du virus chez certaines personnes qui seraient découragées par le fait d'aller chez le médecin chercher une ordonnance ou par le fait simplement de payer le prix d'un test.
Dans cette pharmacie, les trois quarts des clients testés positifs au Covid ne sont pas vaccinés.
Reportage RTL signé Nerissa Emani. Notez qu'Olivier Véran sera l'invité d'RTL Soir aujourd'hui à partir de 18h. Il répondra à toutes vos questions qu'on imagine nombreuses. Rendez-vous au 32-10.
Et à 8h20 ce matin, faut-il réinstaurer la gratuité des tests? Nous en débattrons avec Thomas Meunier qui est député La République En Marche de Charente et par ailleurs médecin, et Pascal Crépet, épidémiologiste.
La crise du Covid qui a aggravé la pauvreté en France, c'est ce que montre le rapport du Secours catholique publié aujourd'hui. L'an dernier, près d'un Français sur 10 a dû recourir à l'aide alimentaire et la banque à l'aide alimentaire et la banque alimentaire tire la sonnette d'alarme. Le nombre de bénéficiaires a augmenté de presque 12% depuis. Claude Ballan, le président des banques alimentaires, s'inquiète pour sa grande collecte qui aura lieu du 26 au 28 novembre. Il faut au moins 11 000 tonnes de nourriture.
La grande collecte nationale doit absolument réussir pour faire encore plus que les 11 000 tonnes. Ça demande un travail extraordinaire. On est obligé de trouver, en plus de nos 7 000 bénévoles permanents, 130 000 bénévoles occasionnels. Je veux dire, il s'agit de se mobiliser pour que l'heure ne soit pas grave.
Propos recueillis pour RTL par Vincent Serrano. Sachez que vous pouvez déjà donner depuis lundi sur le site monpaniersolidaire.org.
Dans l'éternel conflit entre écologie et économie, Ascoval a tranché, elle préfère polluer.
Oui, l'aciérie de Saint-Saulve dans le Nord va délocaliser provisoirement sa production en Allemagne sur des sites employant des hauts fourneaux à charbon. Une conséquence de la hausse des tarifs de l'énergie, les fours électriques utilisés en France deviennent trop chers. Sauf que le charbon est beaucoup plus polluant. Le candidat communiste Fabien Roussel demande au ministre de l'économie d'intervenir sans délai.
On marche sur la tête. On a ici un actionnaire qui décide de rapatrier de la production produite ici en France à partir d'électricité décarbonée provenant de la centrale nucléaire de Gravelines. Ces rails sortiront des hauts fourneaux allemands produits avec du charbon. Ils seront 10 fois plus polluants. C'est donc vraiment un non-sens.
Fabien Roussel avec Morad Djabari. 10 000 euros d'amende requis contre Éric Zemmour. Le polémiste était jugé pour provocation à la haine raciale après ses propos il y a un an sur CNews. Il avait notamment affirmé que les migrants mineurs isolés étaient tous, je cite, « voleurs, assassins et violeurs ». Décision le 17 janvier. Le père Prénat, lui, vient de passer sa première nuit en prison. L'ancien prêtre a été condamné à 5 ans de prison ferme l'an dernier pour des agressions sexuelles sur mineurs commises pendant 20 ans dans son diocèse de Lyon. Jusqu'ici, il avait échappé à l'incarcération pour raison de santé. Il a finalement été arrêté hier matin dans la Loire. Les chiffres sont accablants. Un élève sur 10 serait touché par le harcèlement scolaire. 1 sur 5 affirme avoir déjà été confronté au cyberharcèlement. Avec la pandémie, le harcèlement scolaire a reculé, mais il s'est déplacé sur les réseaux sociaux. Les appels au 30-18 ont bondi de 44%. À l'étranger, c'était passé relativement inaperçu au mois d'août, en pleine vacances. La Chine a tiré cet été un missile hypersonique, un test qui inquiète les États-Unis, Brice Dugénie.
Ce missile hypersonique chinois change la donne, car une telle capacité militaire permet à Pékin de frapper n'importe quel pays sur la planète. Et c'est bien ce qui inquiète le général John Eaton, numéro 2 de l'état-major américain sur la chaîne CBS.
C'est quand même une immense capacité qui change beaucoup de choses. Donc oui, c'est préoccupant. Ils ont lancé un missile longue portée qui a quasiment fait le tour du monde à une vitesse hypersonique pour revenir frapper une cible en Chine.
Cette arme longue portée se déplace à plus de 7000 km/h et à basse altitude, ce qui la rend impossible à détecter et à intercepter avec un bouclier antimissile.
Pourquoi développer une telle arme si ce n'est pour attaquer d'autres pays?
Longtemps, les Américains ont été les seuls à disposer de telles technologies, mais au fil des années, le développement militaire chinois exponentiel comble le retard, d'où ces interrogations croissante sur les intentions du maître de Pékin, le président Xi Jinping.
Brice Dugénie du service étranger d'RTL. De manière plus pacifique, deux petits Chinois vont être baptisés aujourd'hui en France. Ce sont les deux bébés pandas nés au mois d'août aux eaux de Beauval. Pour cette cérémonie du nom, le parrain sera Kylian Mbappé et la marraine la médaille d'or du plongeon au JO de Tokyo. Les noms seront dévoilés en fin d'après-midi. Le foot, c'est raté pour les filles de l'OL, battues hier soir 1-0 sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des Champions. Elles vont devoir attendre un peu pour valider leur billet pour les quarts de finale. Et ce soir, place au PSG, mais sans Amraoui et Diallo.
Ah bon? Un peu de musique, à bientôt 80 ans. Eddie Mitchell nous revient avec un nouvel album qui sort demain.
Ça s'appelle Country Rock, c'est son 39e album studio et il paraît 60 ans exactement après le premier 33 tours des Chaussettes Noires, son premier groupe. 60 ans de carrière, monsieur Eddie n'en revient pas lui-même.
Ça, je remercie le bon Dieu et je remercie le grand public d'ailleurs, parce que sinon je serais pas là. C'est uniquement lui d'ailleurs. Parce que Dieu n'a rien à voir là-dedans finalement. Quand j'ai fait mon premier disque, c'était pour voir un vrai studio avec des vrais micros. Voilà. Puis après, bon, vogue la galère.
Vous auriez 80 ans l'an prochain.
Oui.
Sacré cap.
Oui, ça passe pas très agréable, mais enfin bon, tant pis. Hein.
Est-ce que la mort, c'est quelque chose qui vous fait peur, Eddie?
Comme disait Audiard, c'est la grande pente glissante. Ça me fait pas plaisir quand même.
Mourir est la chose qui se produit, rien qu'une seule fois dans la vie. Roule, 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 roulette russe.
Et Dimitri, le micro RT. Hôtel de Steven Bellery.
Qu'on retrouve à 9h dans les séries tentées avec une autre très belle rencontre, celle que nous aurons avec Catherine Deneuve. On se retrouve nous à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, ce sera la face cachée de la fête de Thanksgiving qui sera célébrée jeudi prochain aux États-Unis.
Très bien, à tout à l'heure Isabelle. François Langlais, bonjour.
Bonjour Elisa.
Ce matin, vous allez nous parler du gouvernement qui rêve d'une grande sécurité sociale qui inclurait également les mutuelles.
On va explorer ça.
Voilà.
De concert dans un instant.
Quel bouleversement. À tout de suite.
Le matin, Yves Calvi.
Bonjour à tous.
Le gouvernement s'agite autour du projet de grande sécu. Il s'agirait en fait tout bonnement de supprimer les mutuelles et assurances santé complémentaires.
Oui, c'est en effet le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui défend ce projet, qui s'appuie sur différents rapports administratifs, celui de la Cour des comptes en particulier. En France, nos dépenses de santé sont payées par trois personnes.
Oui.
La sécurité sociale, organisme public, qui en prend en charge l'essentiel, hein, et même 100% dans le cas des affections longue durée, de plus en plus fréquentes avec le vieillissement. Deuxième partenaire, les mutuelles ou assureurs privés qui complètent le remboursement. Et puis, le patient lui-même, troisième partenaire, qui en général subit ce qu'on appelle le reste à charge, particulièrement faible en France, hein, c'est de l'ordre de 7% des frais de santé. Eh bien, l'idée de la grande sécu, ça serait de faire prendre en charge la totalité des frais par l'assurance maladie. Il n'y aurait plus qu'un seul assureur santé public.
Pardon, mais je ne vois pas l'intérêt. Enfin,
en fait,
quel
il
est
double.
Le propos, en quelque sorte.
Il est double, l'intérêt, à la fois pour les finances et pour la justice sociale. Côté finances, on s'épargnerait des frais de gestion inutiles. Chaque opération, aujourd'hui remboursée par deux protagonistes, Sécu et Mutuelle, ben elle est traitée deux fois. Ce sont des surcoûts. De plus, les mutuelles sont évidemment en concurrence les unes avec les autres. Hein. Elles dépensent donc de l'argent pour recruter des assurés. Des frais qui renchérissent in fine le coût de la complémentaire pour l'usager. Dans un système unique et public, ben pas de doublons, pas de frais de promotion, donc plusieurs milliards d'économies potentielles.
Vous parliez également de justice sociale.
Oui, c'est l'autre aspect, c'est le plus important. Aujourd'hui, les mutuelles sont obligatoires pour les salariés qui profitent de contrats collectifs avantageux. C'est l'entreprise qui les donne. Mais les seniors, dès qu'ils sont à la retraite, sont obligés de s'assurer en individuel, donc plus cher. Et d'autant plus cher que leur risque de santé est plus élevé, parce qu'ils sont âgés. Pour les retraités à faible pension, le coût de mutuelle, il est prohibitif. Hein. C'est parfois un ou deux mois de pension. Ça les oblige souvent à renoncer aux soins. Un système unique permettrait de mutualiser les risques sur toutes les classes d'âge, et donc de réduire les inégalités dans l'accès aux soins.
Bon, j'ai l'impression que vous nous dites qu'il faut y aller.
Alors écoutez, ça c'était les arguments pour. Il y a aussi des inconvénients. Le public, globalement, on peut pas dire qu'il soit réputé pour son efficacité.
Non, ça se saurait.
Hein, le système britannique, d'ailleurs, nationalisé, bon, pas très efficace, au point que les Britanniques aisés ont recours à des prestations à des assureurs privés.
Ah oui.
Beaucoup plus chers, souvent meilleurs. Ça serait quand même regrettable qu'on en arrive là chez nous. Chez nous, où le système hybride, public et privé, à la fois pour les prestataires de soins, les médecins, les hôpitaux, et pour les financeurs, bah, il a permis de préserver une bonne qualité quand même, un accès assez large, malgré les tensions qu'on observe de plus en plus. Mmh. Et puis, dernier problème, que faire des 500 assureurs et mutuelles et de leurs 100 000 salariés, si la Sécu est en monopole? Bon, les transformer en fonctionnaires de la Sécu, pas simple.
Bon, cette réforme pourrait-elle se faire avant la présidentielle?
Écoutez, c'est peu probable, mais le débat est lancé pour la campagne. Et c'est une bonne chose, parce que l'épidémie a pointé les fragilités de notre système de soins, desquelles on s'était accommodé. Fragilités qui vont s'agrandir. À cause des puissants effets du vieillissement démographique, bah il est temps de soulever le capot.
Merci beaucoup François Langlais. Sur RTL.fr, on peut écouter le hors-série de Langlais Co qui vient d'être mis en ligne il y a quelques instants. Cette semaine, vous vous demandez si l'on se dirige vers une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis après le sommet virtuel tendu entre les deux présidents. Il est 7h44. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Valérie Pécresse, candidate à l'investiture LR. On va s'arrêter, tiens, sur le sujet de la réindustrialisation, sujet hautement écologique.
A tout de suite avec Valérie Pécresse sur RTL.
RTL Matin. Avec Yves Calvi.
RTL, il est 7h45. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez ce matin la présidente de la région Île-de-France et candidate à la désignation au Congrès des Républicains, Valérie Pécresse.
Bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Alors que tous les candidats ne pensent qu'à réindustrialiser notre pays, on s'aperçoit ce matin à quel point il est parfois difficile de maintenir à flot l'industrie déjà présente. Je vais vous parler de l'usine Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord, usine qui a connu beaucoup de turbulences en 4 ans, frôlant la liquidation judiciaire. Bruno Le Maire était intervenu, Xavier Bertrand, président de la région aussi. On pensait qu'en août, avec le rachat d'un industriel allemand, les ennuis étaient derrière. Eh bien, on apprend ce matin que l'aciérie va délocaliser de manière temporaire 40% de sa production en Allemagne sur des sites employant des hauts fourneaux à charbon. C'est la conséquence des hausses des prix de l'énergie. Les fours électriques coûtent trop cher. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes à l'Élysée dans ce cas-là?
Bon, d'abord, c'est scandaleux et ubuesque, surtout à quelques jours de la COP26
ben oui.
de Glasgow, dont vous savez qu'elle s'est traduite malheureusement par une forte déception des pays membres et des pays qui ont participé. Moi, ce que ça prouve, c'est qu'il faut absolument que la France aille à Bruxelles renégocier la fixation des prix de l'énergie. Aujourd'hui, vous le savez, l'électricité française a un prix qui est fixé et qui est fixé notamment par rapport au prix des centrales à charbon et au prix des centrales au gaz, donc au prix des énergies fossiles, alors que nous produisons une majorité de notre électricité avec l'énergie nucléaire qui est beaucoup moins chère. Mais nous nous sommes laissés entraîner à la fixation à Bruxelles d'un prix de l'énergie qui nous est défavorable, qui est défavorable à la production énergétique en France. Donc il faut renégocier ce prix. Mais qu'est-ce que ça montre?
On voit bien que l'Europe est divisée, puisque Bruno Le Maire est allé plaider la cause.
Oui, mais qu'est-ce que ça montre justement? Ça montre qu'Emmanuel Macron est un président qui est faible en Europe, qui n'arrive pas à défendre les intérêts de la France, et pire aujourd'hui, qui n'arrive pas à défendre les intérêts de la planète, puisque l'énergie nucléaire est une énergie décarbonée, et que si nous voulons protéger la planète contre le dérèglement climatique, nous devons atteindre en Europe l'objectif zéro carbone 2050, et c'est certainement pas avec les centrales à charbon allemandes qu'on l'atteindra. Donc il faut être beaucoup plus ferme, parler beaucoup plus fort, rallier des États à la cause du nucléaire et de cette énergie décarbonée.
C'est facile à dire, plus difficile à faire, pardon.
Bah écoutez, si c'était facile à faire, y aurait beaucoup de candidats à la présidentielle.
Est-ce que dans ce cadre-là, vous dites qu'il faut une taxe carbone aux frontières de l'Europe?
Bien évidemment, mais je plaide pour cette taxe carbone depuis toujours. Vous le savez peut-être, mais quand j'étais ministre de Nicolas Sarkozy, ministre du Budget, j'avais déjà plaidé pour une taxe carbone. Et j'avais signé, à l'époque, le partenariat EcoMove, qui a été ensuite détricoté par François Hollande.
Quand on parle de réindustrialisation, Valérie Pécresse...
Mais vous savez, cette taxe carbone, elle est intéressante, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fera une barrière écologique aux frontières de l'Europe.
C'est ça, on taxe les produits des pays qui ne respectent pas les mêmes règles climat que nous, en fait, c'est ça.
C'est exactement ça. Et aujourd'hui, vous le voyez bien, il y a un immense paradoxe, c'est que l'écologie est une contrainte pour nos industries, une contrainte pour nos agriculteurs, ils la respectent, et moyennant quoi, l'Europe est un ventre mou de la mondialisation qui laisse entrer sur son sol, qui laisse commercialiser, par exemple, des produits alimentaires dans les supermarchés qui ne respectent pas nos normes environnementales. Donc il faut une taxe carbone aux frontières.
Mais quand on voudra faire venir de l'engrais, de l'acier, de l'aluminium, de Chine, de Turquie, de Russie, il y aura peut-être des mesures de rétorsion, non?
Non, parce que
si on leur met des taxes.
Non, parce que la question aujourd'hui, c'est une question de réciprocité. Si on veut sauver la planète, si on s'inscrit dans la démarche de la COP26, à ce moment-là, il faut que nous décarbonions tous nos produits. Mais on acceptera évidemment que nos produits soient examinés à cette aune aussi dans les autres pays.
Mais moi, je voudrais savoir.
Et ça nous donnera un avantage compétitif.
Pour revenir sur la réindustrialisation, ce que je voudrais savoir de votre part, c'est quel secteur on décide de réindustrialiser?
Alors,
est-ce qu'il faut maintenir des industries comme ça, comme l'aciérie d'Ascoval, qui fait des rails pour la SNCF, la RATP, ou est-ce qu'il faut investir dans l'hydrogène décarboné, les laboratoires? C'est quoi pour vous la réindustrialisation?
D'abord, c'est un chiffre, c'est 85 milliards de déficit de la balance commerciale française. C'est un chiffre que personne ne donne, qui montre notre absolue dépendance vis-à-vis des produits étrangers, y compris même d'ailleurs en matière alimentaire, nous la France. Donc nous sommes dépendants, nous devons redevenir indépendants. C'est ça la vraie stratégie de réindustrialisation. Et pour ça, il faut un haut conseil à la souveraineté économique et numérique auprès du Premier ministre qui travaille avec des experts pour savoir quels sont les produits de souveraineté que nous devons produire en France. Quels sont les produits dont nous ne pouvons pas nous passer. Pendant la crise Covid, on s'est rendu compte que le Doliprane était produit en Chine. Est-ce qu'on peut être dépendant pour des médicaments qui sont des médicaments de première nécessité
en France ?
Donc vous
voulez un conseil à l'économie et au numérique.
À la souveraineté économique et numérique. Et ça vaut aussi... Vous avez dit, est-ce qu'il faut faire des produits technologiques ou est-ce qu'il faut faire des produits, des matières premières ? Mais les deux, regardez le bois. Le bois aujourd'hui, toutes les constructions dans le logement vont être en bois. On nous demande de faire beaucoup plus de matériaux bois, de renoncer au plastique. Et nous n'avons toujours pas une filière bois en France, alors que nous produisons du bois. Donc du bois, mais aussi le cloud souverain, le numérique. Nous avons des données personnelles. Aujourd'hui, ces données personnelles, nous les donnons aux GAFAM. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les productions de souveraineté, ça va de la tech jusque, j'allais dire, à l'industrie la plus traditionnelle.
Je change complètement.
Mais moderne.
Je change complètement de
sujet. Et compétitive.
Le dictionnaire Le Robert a fait entrer le prénom Yel. Yel, c'est la contraction de il et de elle, pour ceux qui ne se reconnaissent ni fille ni garçon. Non genré, hein, comme on dit. Donc Yel attend le bus, Yel va au lycée, puis Yel joue au tennis. Donc c'est sur leRobert.fr. Quel effet ça vous fait ?
Bon, d'abord, c'est une enfance à la langue française. Et moi, je ne suis pas pour déconstruire la langue. Dans la langue française, le neutre, c'est le masculin. C'est il. Alors je sais que c'est compliqué à expliquer, mais c'est ça la langue française. Moi, l'écriture inclusive, je l'ai fait interdire quand je suis arrivée à la tête de ma région. Elle était utilisée, j'allais dire un petit peu au petit bonheur la chance, par les services. Donc il y avait des il, des elle, des e, des s. Personne comprenait comment on accordait les participes passés ni les adjectifs. Le vrai problème, c'est que cette écriture pseudo-inclusive, comme personne ne la parle et que personne ne sait la maîtriser, en fait, elle exclut. Elle exclut notamment les plus fragiles d'entre nous, ceux qui ont déjà du mal à maîtriser
notre
langue.
Mais de la part du Robert, c'est quoi ? C'est un effet de mode ? C'est
quoi, le Robert commence à prendre des mots qui commence à s'imposer effectivement dans notre quotidien. Eh bien moi, je dis, sauvons la langue française, mais surtout garantissons son apprentissage. C'est pour ça que dans mon projet, une des grandes causes nationales, ce sera la lutte contre le décrochage scolaire.
David Lisnard, le maire de Cannes, est donc devenu le président de l'AMF, l'Association des maires de France. C'est une bonne nouvelle pour vous ?
Ah bah c'est un camouflet pour Emmanuel Macron, qui a voulu mettre au pas les maires de France, et notamment à coup de subventions. Aujourd'hui, le fait communal s'impose en France comme un gage de, j'allais dire, de liberté, de libre parole.
Mais il vous soutient, David Lisnard ?
David Lisnard est un très grand ami. Après, ses décisions politiques lui appartiennent. Nous partageons deux combats. Un premier combat pour la débureaucratisation de la France. Vous l'avez peut-être vu, mais M. Olaf Scholz, le chancelier d'Allemagne, dans sa plateforme de gouvernement, a prévu de diviser par deux la durée des procédures administratives en Allemagne. Si les Allemands réussissent ça, je peux vous dire qu'il risque d'y avoir beaucoup de délocalisations à nouveau en Allemagne.
10 000 euros requis contre Éric Zemmour pour ses propos sur les migrants mineurs isolés, voleurs, assassins, violeurs. Ça vous paraît une amende juste si elle est confirmée ?
Mais je crois qu'on ne peut pas toujours faire de la provocation avec des vrais problèmes. Le sujet des mineurs isolés est un immense problème. On sait très bien qu'une bonne partie de ces mineurs, d'abord, ne le sont pas, et qu'une autre partie est exploitée par des réseaux mafieux qui font de l'esclavage d'enfants et qui, effectivement, les emmènent dans des réseaux de prostitution, dans des réseaux de trafic. Mais ça ne justifie pas qu'on fasse de la provocation avec des enfants.
Est-ce que vous doutez de votre victoire ?
On ne doute jamais quand on se présente. Si on doute, on ne se présente pas.
Merci beaucoup Valérie Pécresse.
Et l'intégralité de l'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr. Valérie Pécresse, restez avec nous puisque dans un instant vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
C'est à nous. Il est 7h55.
Dis donc.
Ben oui, bonjour Philippe.
Ça passe, bonjour.
Vous avez remarqué que Valérie Pécresse est restée pour votre chronique.
Et ça tombe bien, car Valérie, vous êtes la seule candidate qu'on peut déjà appeler Madame la Présidente.
C'est vrai.
Car oui, Valérie, vous êtes déjà ma présidente de région. C'est un début. Et quand je vous vois, je ne peux pas m'empêcher de me dire, si ça se trouve, c'est la future présidente de la République. Alors que quand je vois Philippe Juvin, je ne peux pas m'empêcher de me dire, tiens, C'est le gars qui va finir cinquième de la primaire des Républicains. Alors ici, on a reçu récemment Xavier Bertrand, qu'Alba Ventura surnomme sournoisement Jacques Villeray en Mephisto. Oh, écoutez, moi, je l'ai trouvé très sympa. Il a ri 14 fois à ma chronique alors que j'ai fait que 3 vannes. Oui. Les esprits chagrins, ici, disent il surjoue la sympathie. Oh, c'est pas le genre de Xavier. Xavier ne surjoue pas. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai très envie de voter pour une femme et je peux quand même pas demander à Xavier Bertrand de changer de sexe. En plus, Xavier Bertrand en femme, j'ai du mal à me projeter. Xavier Bertrand avec une jupe, un pull jacquard et un carré plongeant. Oui, c'est un peu Martine Aubry. Vous avez raison. En plus, ils sont du Nord tous les deux. C'est très juste.
Bon, écoutez, Philippe, vous avez en tout cas un peu mieux découvert Valérie Pécresse grâce à l'émission Une ambition intime de notre camarade Karine Le Marchand.
Formidable émission. On a entendu votre papa, très touchant, très fier de vous. Vous parlez de votre fragilité, Valérie, de votre manque de confiance en vous. Mais pour ce qui est de votre rencontre avec votre futur mari, Jérôme, on vous sent plutôt sûr de vous. On écoute.
Lui a sans doute eu un coup de foudre, mais moi, j'étais déjà prise.
Bon, en toute humilité, il a eu un coup de foudre. Matt la bombasse. En tout cas, Karine Le Marchand a le don pour détendre ses invités. Vous êtes plus naturel dans cette émission. Et on sent que ça vous agace, cette image de bourgeoise qu'on vous colle, ce côté Béatrice de Montmirail dans Les Visiteurs. Alors que c'est pas vous du tout. Enfin. Et en même temps, il faut le dire, l'interview, vous la faites dans le très chic salon de la région à Saint-Ouen. Oui. Le truc fait 300 mètres carrés. Juste après, on vous voit faire un petit Trivial Poursuite sans prétention, mais dans un parc de 9 hectares. Mais pourquoi ça me colle à la peau, cette image de Versaillaise, merde à la fin, chier.
Écoutez, Valérie Pécresse évoque aussi la misogynie des hommes dans le monde politique.
Ça, c'est vrai. C'est insupportable, la misogynie. Cela dit, les femmes entre elles sont très dures. Je ne vous dis pas comment Alba parle des femmes en off. Oh, puis si, je vous le dis. Je l'ai entendu parler d'Anne Hidalgo cette semaine.
Elle est vieille, elle est arrêtée depuis 2020.
Bon, elle parlait peut-être de la centrale. Je sais pas.
Alors parlons de l'actu. À Calais, Decathlon retire ses kayaks de la vente parce qu'ils sont utilisés par les migrants pour rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche.
Une bien triste info, Yves. Les migrants arrivent en France, le pays de la mode, et la première chose qu'ils font, c'est d'aller chez Decathlon. Et le vrai scandale, Yves, c'est que Decathlon retire les kayaks, mais laisse en rayon les doudounes orange quechua, les pantalons multipoches et des grosses chaussures de marche marron. Oh, Xavier Bertrand, qu'est-ce que vous faites chez Decathlon? J'achète mes petits Mephisto. Voilà. En tout cas, entre les randonneurs à la frontière polonaise et les kayakistes de Calais, on notera chez le migrant un goût prononcé pour les activités sportives de plein air. Et je tiens à rappeler à tous que Philippe Croizon a réussi à traverser la Manche sans bras et sans jambes. Alors quand je vois des migrants échouer avec leurs quatre membres et un kayak flambant neuf, j'ai envie de leur dire « petite bite les migrants ». Impréparation, messieurs les migrants. À noter qu'il n'y a pas que les Kurdes et les Irakiens, il y a aussi les Calaisiens qui essaient légitimement de foutre le camp de chez eux, on les comprend.
Vous vouliez parler des audiences radio qui vont tomber ce matin ?
Oui, alors je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne sais pas qui est arrivé de nouveau dans cette matinale, mais on est premier. On est dans les premiers.
Oui.
On est premier. Ici, on verra. Voilà, on est premier. On est premier derrière. Ah merde. J'ai pas les chiffres précis, mais bon, avoir le beau sourire de notre directeur, il est content. On aurait dit Jean-Luc Lahaye à la sortie d'un collège. Valérie, vous avez fini deuxième de l'ENA. Alors, mon conseil pour les élections à venir, perdez cette vilaine habitude de finir deuxième. Ne faites pas comme nous, deux, troisième, c'est des places à la con. Et je suis sûr, moi, Alba, hein, je suis sûr, Valérie, Yves, quand Valérie sera à l'Élysée dans quelques semaines, on passera la voir et on lui dira « C'est comment l'Élysée, Valérie ?» Et elle nous dira
« C'est une petite bicoque sans prétention, d'accord, mais elle est très bien conçue, on a passé des soirées formidables. »
On a passé des soirées formidables.
Mais oui, l'œil de Philippe Cavrivière, chaque matin à 7h55 en direct. Et quand vous le voulez, sur le site rtl.fr. Bonne journée à vous, Valérie Pécresse.
Merci
d'être resté avec nous. Notre météo, en quelques mots, cher Louis Baudin.
Oui, avec beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages ce matin. Donc soyez prudents, prévoyez des temps de parcours un petit peu plus longs dans beaucoup de régions, sauf dans le sud-est. Et puis cet après-midi, on pourrait espérer quand même quelques éclaircies. Et par rapport à hier, peut-être quelques trouées plus belles près de la Manche, entre les Alpes, en remontant vers l'Alsace, là aussi on devrait avoir beaucoup de soleil, même chose sur les Pyrénées, près de la Méditerranée, avec un peu de mistral et tramontane. Et puis ce matin, on n'est pas très loin des gelées, hein, entre 1 et 5 degrés, cet après-midi 8 à 10 degrés dans le nord-est, 10 à 13 degrés dans les autres régions, c'est un petit peu comme hier, 17 à 20 degrés près de la Méditerranée.
Merci beaucoup les bonnes RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Trop vieux pour conduire, en Allemagne, certains seniors sont invités à rendre leur permis.
En échange, un abonnement de bus gratuit. On vous raconte ça dès le début de ce journal. Payer moins cher, quitte à polluer plus. Ascoval choisit de déménager son acierie du Nord dans des hauts fourneaux allemands qui fonctionnent au charbon. Colère des salariés. La production viticole française rétrogradée au troisième rang mondial. Faut-il s'en inquiéter? Ce sera l'enquête de la brigade RTL. Vous avez froid? Eh bien, mettez un pull. Les conseils du Crous de Bordeaux à des étudiants qui se plaignaient d'un chauffage défaillant. Et puis le dernier album d'Orelsan, le rappeur, un disque coup de poing sur l'époque et la société, extrait en fin de journal.
Votre surf de l'info, Cyprien Sini.
La vague Covid, épisode 5, ça commence à devenir compliqué de renouveler les bandes annonces.
Ça sera dès la fin du journal. La face cachée de la une, Isabelle Choquet.
On va parler de Thanksgiving. Faut pas croire tout ce qu'on nous raconte, la dinde, tout ça, pipo.
Dès 8h40, et puis nous débattrons à 8h20 avec Thomas Mignet, député de La République En Marche de Charente, et Pascal Crépé, qui est épidémiologiste. La question aujourd'hui, faut-il réinstaurer la gratuité des tests ?
RTL Matin.
Existe-t-il un âge limite pour conduire ? À l'instar des jeunes conducteurs, faut-il contrôler davantage les seniors, voire même leur interdire de prendre le volant ? Le seul fait de poser la question en France, d'ouvrir le débat, est déjà interprété comme une forme de discrimination. Nos voisins allemands semblent avoir moins de pudeur dans ce domaine. Pour preuve, le Land de Bade-Württemberg, frontalier avec l'Alsace, vient de lancer une campagne pour inciter les seniors à rendre leur permis. Bonjour Yannick Collant.
Bonjour.
Troquer le permis contre un abonnement gratuit au transport en commun, ce qui nous interpelle, c'est l'âge de ces conducteurs jugés trop vieux, 65 ans.
Ah oui, c'est très tôt, hein, mais le Bade-Württemberg a remarqué que 30% des accidents mortels concernaient ces conducteurs de plus de 65 ans et qu'ils étaient responsables deux fois sur trois. C'est notamment le cas sur les portions d'autoroute à vitesse illimitée où il faut réagir très vite. D'où cette idée de leur faire prendre plutôt le train et le bus. C'est quand même un peu une surprise pour les conducteurs frontaliers comme Michel, un Alsacien habitué de ces autoroutes allemandes. Il a travaillé pendant 15 ans comme cuisinier dans le Bade-Württemberg.
Non, ils sont pas fous, mais bon, des fois... À quel âge ils ont dit qu'ils veulent l'enlever ?
65 ans.
65 ans, je trouve, c'est un peu tôt. Disons 80, j'accepterais. En Allemagne, les routes, c'est plus sécurisé qu'en France, hein, malgré la vitesse. Je faisais beaucoup d'autoroutes. Vous êtes plus concentré qu'à rouler à 130 en France et regarder à gauche, à droite. Non, la voiture, je ne la laisserai pas tomber. Et je ne donnerai pas le permis.
Mais du côté du Bade-Württemberg, on se veut confiant. La mesure avait déjà été testée à Stuttgart depuis 2015 et dans trois villes moyennes autour, 5300 conducteurs de plus de 65 ans avaient accepté de rendre leur permis pour ces transports en commun gratuits.
Voilà qui incitera peut-être nos autorités à la réflexion. Merci Yannick Collant.
Il est 8h04, payer moins cher, quitte à polluer davantage. L'usine d'acier d'Ascoval dans le Nord a fait son choix. Elle s'apprête à délocaliser sa production.
Direction les hauts fourneaux allemands alimentés par du charbon, moins cher que les fours français qui fonctionnent à l'électricité. Une ineptie pour Nassim Bardi, délégué CGT d'Ascoval.
Ça veut dire qu'à cause de l'économie, eh ben, on remet en question toutes les idées climatiques, toutes les remises en question climatiques, à cause de l'économie, à cause du capitalisme. Un haut fourneau émet 10 fois plus qu'un four électrique. Pour une tonne de rail produite avec la filière électrique, on épargne 1,7 tonne de CO2. Si maintenant, après la COP26, on fait différemment, c'est qu'en fait, tout est bidon.
Propos recueillis par Mourad Djabari pour RTL. Bonjour Martial Youf.
Bonjour.
Il a raison ce délégué CGT. D'un côté, on s'engage à moins polluer. De l'autre, il y a cette rentabilité qui, quoi qu'il en soit, finit par primer.
Ben oui, c'est tout le paradoxe de la flambée des cours de l'énergie que nous sommes en train de vivre. Ascoval a bénéficié de 150 millions d'euros d'investissement depuis quelques années pour devenir l'une des aciéries les plus modernes et les plus écolos d'Europe grâce à ce fameux four qui fonctionne à l'électricité. Ascoval produit des blooms, ce sont des barres d'acier qui servent ensuite à fabriquer des rails pour les compagnies ferroviaires européennes. Mais le prix du kilowattheure flambe depuis quelques mois, on le sait. Le charbon est donc devenu une énergie meilleure marché, surtout en Allemagne où le nucléaire a été remplacé par le charbon pour fabriquer de l'électricité. L'inquiétude et le danger, c'est qu'on sait qu'une aciérie qui réduit de 40% sa production a beaucoup de mal à remonter ensuite. Et puis il y a un petit problème de confiance aussi autour du site Ascoval, parce que l'usine de Saint-Saulve a été une nouvelle fois reprise, il y a 4 mois seulement, par Sarstal. C'est un groupe allemand, justement. Et pour le moment, on nous dit que la décision n'est pas encore prise. Bercy surveille de près le dossier, mais si l'option est retenue, ce serait effectivement le choix de la rentabilité contre le choix de l'environnement.
Merci Martial Youf, chef du service économie de RTL.
Plus de 20 000 nouveaux cas de Covid, hein, recensé en 24 heures en France. Notre pays est donc confronté à son tour à la cinquième vague.
Même si le gouvernement espère pouvoir la contenir, passer Noël et traverser l'hiver en évitant un nouveau confinement ou de nouvelles fermetures.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera l'invité d'RTL Soir dès 18h avec Julien Cellier. Il répondra à toutes vos questions au 3210.
Les chiffres sont accablants. Un élève sur 10 en France serait victime de harcèlement scolaire et 1 sur 5 affirme avoir déjà été confronté à des formes de cyberharcèlement. Un phénomène qui s'est amplifié avec les confinements, les écoles étant fermées, le harcèlement s'est déplacé sur les réseaux sociaux. Eliane, lui, a connu les deux, l'enfer du harcèlement alors qu'il était au collège. Aujourd'hui, il témoigne pour alerter et pour protéger les victimes.
En troisième, c'était l'horreur. Je me prenais des insultes, des remarques par rapport à mon orientation sexuelle. C'était des menaces. Ensuite, ça a continué sur les réseaux sociaux, sur l'application Snapchat. Toujours la même chose, des remarques, des montages photos, vidéos. Donc j'ai dû partir de cet établissement et trouver un autre lycée. Avec ce que j'ai vécu tout au long de mon année de troisième, je me suis dit, je vais intervenir dans les établissements scolaires, ça va aider les autres.
Et qu'est-ce que vous leur dites justement ?
Moi, je leur dis de parler aux référents, aux directeurs. Il faut qu'il y ait une trace, il faut aller à la police, il faut faire des mains courantes, il faut vraiment ne pas baisser les bras, ne pas avancer la tête baissée et se battre.
Le témoignage et le message d'espoir d'Eliane au micro de Marie Guerrier. Ce jeudi a lieu la journée nationale contre le harcèlement scolaire. On rappelle le numéro 3018, numéro court destiné aux victimes de violences sur Internet.
La France est-elle encore le pays du vin ? On s'interroge dans un instant, alors que notre production vient d'être rétrogradée au troisième rang mondial. Mauvaise passade ou phénomène durable ? Les questions et les réponses dans un tout petit instant sur RTL. Il est 8h07, restez avec nous.
RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Il est arrivé depuis minuit dans les bistrots et les restaurants. Alors pas Dominique Tenza, hein, le Beaujolais nouveau.
Célébré comme ici dans le village de Beaujeu, capitale historique du Beaujolais. C'était la nuit dernière, on était censé entendre quelques petits feux d'artifice.
Oui,
c'était ça, la fête à Beaujeu. Pourtant, derrière ces feux d'artifice et les scènes de fête, il y a la réalité des chiffres. La production viticole française vient de rétrograder à la troisième place mondiale, derrière l'Italie, derrière l'Espagne. Faut-il s'en inquiéter ? C'est l'enquête ce matin de la Brigade RTL. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
D'abord, pourquoi la production a-t-elle été aussi mauvaise ?
La météo est en faute, hein, d'abord. Alors, ils ont souffert, nos viticulteurs, cette année. Le gel dans pratiquement toutes les régions en avril. Après, il y a eu la pluie qui a favorisé le mildiou, le champignon. En Provence, il y a eu la sécheresse. Bref, les vendanges ont été désastreuses. C'est la plus mauvaise récolte depuis 74 ans. Mmh. Mais on va rester positif. Ah. En qualité, là, ça s'annonce très bien. Il y a eu peu de raisins, mais ils vont donner du bon vin.
Alors, est-ce qu'on ne risque pas de manquer de vin ?
Alors, pour tous les rouges et les vins de qualité qui se gardent, non, il n'y a pas de risque de pénurie grâce au stock important qui restait de l'année dernière à cause du Covid. En revanche, pour tous les vins qui se boivent tout de suite, les blancs d'apéritif, les rosés, les stocks étaient beaucoup plus faibles. On risque d'en manquer et de payer plus cher.
Alors, comment se porte le marché en France ? On peut imaginer que là aussi, la crise a eu un impact.
Oui, alors le secteur a moins vendu, les cafés, les restaurants ont été fermés, mais ce secteur, il a réussi à s'adapter. Et finalement, le Covid a accéléré des tendances qui étaient là avant. Donc, on boit moins, mais on boit mieux. Les Français, pendant le confinement, se sont fait plaisir avec de bonnes bouteilles, plus chères. Les ventes de bio se sont accélérées. Le bio, c'est déjà 17% du vignoble français. Et puis cette période a dopé le e-commerce et les livraisons à domicile, y compris pour le vin.
Dernière question, Virginie. On est souvent doublé dans les grands concours internationaux par des vins australiens, sud-africains, même des vins chinois. En tant que Français, on a toujours l'impression de faire les meilleurs vins du monde. La question qui fâche, est-ce toujours le cas ?
Mais oui, il y a effectivement des bons vins dans tous les pays, donc c'est normal qu'ils gagnent des concours. Mais le vin français reste largement le plus vendu dans le monde en valeur, en chiffre d'affaires. La France est toujours numéro un mondial. Les étrangers aiment nos grands crus. Un hectolitre de vin français est vendu à l'export deux fois plus cher qu'un vin italien, cinq fois plus qu'un espagnol. Et les Australiens ou les Sud-Africains sont toujours très loin derrière nos appellations françaises.
Non, nous mais... voilà rassurés, avec modération. Merci beaucoup Virginie Garin.
J'ai bien compris qu'on n'allait pas manquer de vin. Une vague de froid attendu en France la semaine prochaine. Les températures devraient chuter à partir de dimanche.
Voilà qui ne risque pas de rassurer ces étudiants logés dans les résidences du Crous de Bordeaux, sur le campus de Talence, où le chauffage est défaillant et où la seule réponse pour l'instant de la direction, c'est de mettre un pull. Le reportage de Philippe de Maria.
Nadia sort de sa résidence universitaire. Elle est pressée d'aller en cours et de quitter son logement glacé.
Moi, il fait super froid chez moi. Je suis tout le temps chez ma pote et tout parce qu'il fait super froid. Le chauffage vient du sol. Il fait froid
dans le sol. Avant, je dormais par exemple, je dormais pas habillée. Là maintenant, je suis obligée de dormir habillée parce qu'il fait trop froid.
Vous aimeriez quoi alors ?
Mais qu'il fasse un peu plus chaud. Comme ça, je passerai un peu plus de temps chez moi. Ce serait cool.
Dans un mail aux étudiants, le Crous de Bordeaux recommandait à ses locataires de mettre un pull. Humour administratif certainement aujourd'hui. Après moult relances, le Crous, dans un communiqué, dit regretter cette formulation et affirme tout mettre en œuvre pour améliorer la situation. Mais le froid n'est pas le seul problème auquel font face les résidents. Ryan, lui, a bien chaud, mais sa chambre est envahie de cafards.
C'est une infection de blatte que j'ai. J'ai dû changer de logement déjà à cause de ça. Et puis, ils m'ont mis dans un nouveau logement et ça a encore été le cas. J'ai demandé plusieurs interventions, mais ça n'a rien changé.
Ryan va à nouveau déménager dans une autre résidence universitaire, on l'espère, bien chauffée.
On l'espère pour lui, Philippe.
Sinon, il mettra deux pulls.
Il mettra deux pulls. Et décollant, Philippe de Maria pour RTL.
On termine en musique avec le retour fracassant d'un des rappeurs les plus talentueux du moment, Orelsan.
À 39 ans, il sort demain, vendredi, son quatrième album qui devrait réaliser le meilleur démarrage de l'année au rayon disque. Hier midi, il en a publié le premier extrait, le titre « L'odeur de l'essence », près de 2 millions de vues en quelques heures sur YouTube. Steven Bellery.
C'est un titre coup de poing de 4 minutes 10. Orelsan revient avec un brûlot quasi politique. « Regarde », lance-t-il à l'impératif, comme pour mieux nous obliger à faire face à la réalité.
La nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension, c'est dire ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé.
Le rappeur de 39 ans est devenu l'une des plumes les plus acérées de la chanson. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni, scande Orelsan, pour qui seule la peur et l'anxiété nous gouvernent aujourd'hui. L'odeur de l'essence est multiple. L'immigration, les débats politiques hystérisés, les chaînes info, la méfiance des autres, la haine ou l'alcool se bousculent dans la chanson.
Les jeux sont tous nos leaders ont échoué, ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrit.
Tout nous mènerait vers un crash pronostiqué en chute. Pas pour Orelsan qui a déjà rempli 4 Bercy prévus en mars.
On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. On sait pas gérer nos relations, donc on les gâche. S'assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble, on se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers
l'autre. Orelsan, crash. Que vous retrouverez demain dans Laissez-vous tenter, le rappeur rare dans les médias, a accordé un long entretien à Steven Bellery. Ben voilà, c'était le journal de 7h, de 8h, on se retrouve à 9h.
Dites donc,
il est 8h14, hein, et on se retrouve à 9h, vous et moi, avec grand plaisir. Cyprien Signy dans un petit instant.
Absolument, on va parler cinquième vague.
Cinquième vague, ouais. Tiens, comme c'est surprenant.
Pas surfait.
À tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
8h17, Cyprien, vous surfez avec la cinquième vague.
Ah bah quand même !
La cinquième vague est là.
Ah bah on a failli attendre. Dites donc, on arrive après tout le monde comme d'habitude. La cinquième vague, enfin chez nous donc, avec l'annonce classique du porte-parole.
Partout, l'épidémie accélère et le virus reprend du terrain.
Oui, classique parce que cet été...
La quatrième vague pourrait avoir commencé. C'est une réalité. L'épidémie reprend dans notre pays, elle reprend vite.
Et puis avec le Premier ministre, c'est pareil.
Oui, la troisième vague est là et elle nous frappe durement.
Sans oublier évidemment...
En France, la deuxième vague est là. Hey. Nous observons aujourd'hui une progression rapide et très préoccupante de l'épidémie dans tous les pays d'Europe.
Eh oui, c'est la même. Un jour sans fin cette histoire, avec bien entendu, concernant des mesures type reconfinement, cette formule qu'on aime tant prononcer hier.
Demander si je peux exclure totalement qu'on ait à prendre d'autres mesures, malheureusement la réponse est non.
Ce qui en gros veut dire la même chose que l'incontournable prononcé maintes et maintes fois.
Rien n'est exclu. Maintenant moi je n'exclus jamais rien par principe dans cette épidémie. Il faut jamais rien exclure par principe.
Et puis bon, si vous demandez si comme d'habitude...
Et les prochains jours seront...
Décisifs.
Ou encore avec sa variante...
Les prochains jours seront déterminants.
Eh bien hier, Gabriel Attal a innové avec une nouvelle formule.
Beaucoup des semaines à venir est entre nos mains.
Eh oui, ça c'est l'art de se renouveler, de nous responsabiliser. C'est pas facile d'être porte-parole, hein, c'est un métier. Mais le plus surprenant, finalement, dans le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier, c'est que Gabriel Attal a dit ça.
Cette vague, nous savions qu'elle pouvait arriver.
Ah ouais. Il le savait tellement qu'il y a 2 mois, le Premier ministre et le Monsieur Vaccin nous expliquaient à la télé.
Je suis plutôt optimiste.
On est sur le bon chemin, sur la bonne voie pour retrouver
une vie normale.
Ouais, il savait rien du tout en fait. Alors, malgré l'arrivée de cette cinquième vague, on va quand même finir par la bonne nouvelle de Gabriel Attal.
Nous traversons chaque vague mieux que la précédente.
Cool. Et ben avec toutes les vagues qu'on se prend à ce rythme-là...
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
On va bientôt pouvoir s'inscrire pour le prochain Vendée Globe, tellement on traverse bien les vagues.
Merci Cyprien, on vous retrouve ce soir avec toute votre équipe pour défaire le monde.
18h40, 19h.
Julien Cellier, je rappelle que le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera ce soir l'invité de Julien et que vous pourrez interroger notre ministre en le questionnant au 3210 par téléphone.
RTL Matin, le choix d'Yves Calvi.
Il est 8h19, bonjour Thomas Meynier.
Bonjour.
Vous êtes député La République En Marche de Charente et par ailleurs médecin, je le rappelle. Nous sommes aussi en ligne avec Pascal Crépet qui est épidémiologiste. Bonjour Pascal Crépet.
Bonjour.
Plus de 20 000 cas positifs au coronavirus dans les 24 dernières heures. Plus de doute, la cinquième vague est bien là. Et dans le même temps, la question qui agite la société est de savoir s'il faut rendre à nouveau les tests gratuits pour tous les Français. Thomas Meynier, vous étiez contre la gratuité depuis plusieurs mois. Au vu de la cinquième vague qui monte, est-ce que votre position évolue ?
Non, je maintiens cette position que j'avais portée d'ailleurs auprès du gouvernement dès le printemps, parce que la vaccination est une responsabilité individuelle pour une solidarité collective. Et à partir du moment où on a des vaccins efficaces, accessibles en nombre, pris en charge à 100% par la solidarité nationale, il me semble légitime que celles et ceux qui ne font pas le choix de se faire vacciner, et c'est leur droit, prennent en charge eux-mêmes la réalisation de ces tests itératifs. Parce qu'on a vu trop souvent au printemps des gens qui se faisaient tester tous les deux jours plutôt que de se faire vacciner, plutôt par confort. Et ça, il fallait arrêter avec cette pratique.
Vous dites à ces Français qui ne veulent pas être vaccinés, assumez votre choix. Ce n'est pas à nous de le prendre en charge, d'une certaine façon ?
Absolument. Quand on fait il faut faire le choix de la solidarité nationale et collective. C'est ce que font beaucoup de gens qui se font vacciner. Quand on n'entre pas dans cet enjeu qui est une responsabilité individuelle, il faut savoir l'assumer. Et j'ajoute que on parle de revenir sur la prise en charge des tests. Oui. En réalité, quand les personnes sont vaccinés avec un schéma vaccinal complet pour les mineurs, pour les gens qui sont hospitalisés, pour les gens qui ont une prescription parce qu'il y a un enjeu à se faire tester. Dans ces conditions-là, c'est-à-dire pour l'immense majorité, 90 à 95% de la population, les tests sont toujours pris en charge.
Vous qui suivez ce dossier de très près, avant que nous donnions la parole à Pascal Crépet, est-ce que vous nous confirmez que les tests auraient baissé de 35%?
Il y a eu une baisse. Santé publique France nous disait que pour avoir un bon thermomètre et un bon suivi de l'épidémie, il fallait 2 millions de tests par semaine. Nous sommes aujourd'hui à 2,5 millions de tests par semaine. Donc le thermomètre, eh bien là, fonctionne. Si, là, en réalité, je crois qu'avec la vaccination qui s'est bien développée, on a un peu perdu l'habitude de se faire tester, notamment quand on est vacciné parce qu'on se croit, véritablement on est protégé, mais il y a encore la nécessité de se faire tester. Et donc je crois que c'est plutôt là-dessus qu'il faut insister pour rappeler notamment les personnes vaccinées à aller se faire tester.
Pascal Crépet, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste. Est-ce que pour vous l'urgence en ce début de cinquième vague, c'est bien de rendre ces tests gratuits ?
Alors, c'est pas la seule urgence, mais ça fait partie effectivement des éléments qui pourraient nous aider à lutter contre cette épidémie. Alors, c'est vrai que les tests, c'est un thermomètre parce que ça permet de suivre l'incidence de l'épidémie. Mais ce n'est pas juste un thermomètre, c'est aussi un moyen de lutter contre les chaînes de transmission et contre les cas secondaires qui sont générés par les personnes qui sont porteuses du virus. Moi, je comprends totalement l'argument menant au déremboursement, enfin les arguments menant au déremboursement des tests de confort. Et fondamentalement, moi, j'ai pas, en tant qu'épidémiologiste, j'ai pas à y être opposé ou en faveur. Mais je pense qu'il faut vraiment différencier les tests de confort des tests nécessaires. Et les tests nécessaires...
Comment vous faites le tri ? C'est intéressant votre remarque, mais comment faites-vous le tri justement ?
Ben voilà. Alors, ben déjà, si on définit ce que sont les tests nécessaires, ce sont tous les tests que l'on doit faire. Ben déjà, quand on a des symptômes, quand on pense s'être exposé à une personne infectée, quand on a réellement été exposé à une personne infectée, mais pas forcément encore appelé par l'assurance maladie, parce que l'assurance maladie ne voit pas tout et n'appelle pas forcément tout le monde, et ou simplement quand on veut s'assurer de ne pas être infecté, parce qu'on va aller voir voir les rendre une visite à une personne âgée qui est à risque de forme grave et des choses comme ça. Or, en déremboursant les tests de confort, et encore une fois, je comprends la logique de ce déremboursement, eh bien, on a soit déremboursé ces tests, une partie de ces tests nécessaires, soit rendu leur accès plus compliqué, parce que lorsqu'on demande une prescription médicale pour se faire tester, par exemple quand on a des symptômes, eh bien on rajoute une étape sur le chemin du test, et donc on sait que certaines personnes ne vont soit pas le faire, soit le faire plus tard, et donc on va perdre l'opportunité de casser des chaînes de transmission. Alors quand l'incidence du virus est faible et que le virus circule peu, c'est pas très grave, parce que il y a relativement peu de tests nécessaires à faire, et effectivement c'est plutôt les tests de confort qui sont faits dans ces périodes-là. Mais lorsque l'on est au début d'une vague épidémique, eh bien là, ces tests nécessaires sont non seulement beaucoup plus nombreux, mais en plus de ça, encore plus nécessaires, parce qu'il faut lutter contre la propagation du virus.
Thomas va vous ménier, va vous répondre dans l'ordre, ce sera mieux. Mais est-ce que vous pensez qu'en ce moment, avec la baisse des tests et leur non-remboursement, on sous-évalue la cinquième vague ?
Alors non, parce qu'on a d'autres moyens de suivre l'épidémie. Nous d'ailleurs, dans nos modèles, enfin quand je dis nous, c'est une partie de la communauté des modélisateurs, que ce soit l'Institut Pasteur ou même l'Inserm, n'utilise pas vraiment en fait les tests positifs pour suivre l'épidémie. On utilise plutôt les hospitalisations qui sont un indicateur beaucoup plus stable. Donc on sait que les tests et l'incidence calculée sur les tests est déjà un indicateur un peu biaisé. Donc c'est un élément d'information important, mais il n'est pas forcément totalement nécessaire.
Thomas Meynier, vous êtes toujours pour la vaccination obligatoire ?
Je suis en tout cas pour qu'on puisse très largement vacciner toute la population. On est en capacité de le faire, et il y a aujourd'hui un travail de dentelle pour aller chercher celles et ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner. Donc il y a des démarches d'aller vers des opérations de l'assurance maladie, notamment dans certains quartiers plus défavorisés, pour aller vers cette population. On s'appuie aussi beaucoup sur les professionnels de santé pour convaincre leur patientèle. Et puis moi j'avais agi dans l'idée de faire évoluer le pass sanitaire à la dose de rappel. C'était aujourd'hui le cas, ça a été annoncé par le président de la République. Je ne suis pas favorable à une obligation stricte de la vaccination, parce que d'abord, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, et surtout, ce serait très compliqué à vérifier. Comment s'assurer que toutes les personnes sont vaccinées ? Je ne suis pas favorable à passer du pass sanitaire à un pass vaccinal. Je pense que l'équilibre trouvé aujourd'hui est le bon. En revanche, j'encourage chacune et chacun à aller se faire vacciner, et aussi pour les plus fragiles d'entre nous, sur la dose de rappel et la vaccination contre la grippe.
Qui n'empêche pas, par ailleurs, parfois, de faire un Covid. Mais évidemment, un Covid beaucoup moins grave.
Un Covid.
Non, mais je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le rappeler.
Ah, mais on peut malgré tout contracter le Covid, mais ce sera un Covid beaucoup moins grave. La plus grande étude mondiale et française sur le sujet montre que quand vous êtes vacciné, vous avez 12 fois moins de risques d'être hospitalisé en réanimation. La vaccination fonctionne. La balance bénéfice-risque de la vaccination, c'est les vaccins contre la Covid sont les vaccins les plus contrôlés, les plus surveillés à travers le monde. Il faut se faire vacciner.
Pascal Crépet, l'évolution de l'épidémie, je vous pose la question simplement, vous semble-t-elle inquiétante ?
Inquiétante, alors oui, quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins, que ce soit en Allemagne, au Danemark ou en Europe de l'Est, parce que ça nous rappelle que ce variant qui circule, ce variant Delta, parce qu'il se transmet beaucoup plus facilement, bat en brèche un peu toutes les idées qu'on avait que la vaccination allait être la seule et unique réponse, réponse nécessaire contre cette circulation du virus. On sait depuis que le variant Delta est apparu et est arrivé aux alentours de juillet en France que malheureusement ça ne sera pas le cas, et que les niveaux de vaccination, même s'ils sont très hauts, ne suffiront pas à enrayer cette vague. Donc tout va dépendre ensuite de la réaction des Français et puis des autorités vis-à-vis de cette épidémie. On a encore les moyens d'atténuer la vague et de passer cette période hivernale dans les meilleures conditions. Mais
Tout va dépendre de ce que l'on fera dans les semaines à venir.
Merci infiniment à tous les deux. Vous allez entendre dans quelques instants qu'en Chine, qui déploie la stratégie zéro Covid, on teste absolument tout. Les colis des livreurs, les visiteurs du Disneyland de Shanghai qui sont bloqués à l'intérieur du parc à la suite de la découverte d'un seul cas contact. C'est une stratégie alors là vraiment extrêmement massive. Merci à vous deux. Je vous rappelle que le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera l'invité exceptionnel de Julien Cellier dans RTL Soir dès 18h et qu'il répondra à toutes vos questions au 3210. Dans un instant, la météo à 7 jours avec Louis Baudin. Bonne journée à vous deux.
RTL Matin.
La météo à 7 jours, à 8h31 et 31 secondes, il y a quelques instants. Quelqu'un pense à vous, oui, Louis oui. Baudin. Dis tout, tout.
Eh bien, en fait, on va avoir du temps encore sec pour quelques jours. Hein. L'anticyclone s'est installé. Si vous avez un baromètre, regardez-le. Vous allez voir, l'aiguille est très très haut, hein, 1030 hectopascales.
Ah oui.
D'ailleurs, souvent en face, il y a écrit beau fixe. Bon, ouais. Alors ça, c'est seulement en été. C'est vrai qu'en hiver, ça ne marche pas.
Pourquoi je manque un peu de baromètre en ce qui me concerne. Voilà.
En tout cas, ces pressions très élevées n'empêchent pas les nuages bas d'être très présent encore aujourd'hui, même s'il y aura un petit peu plus d'éclaircies. Demain, c'est la même chose avec beaucoup de grisailles dans le nord, dans le nord-est. Mais encore une fois, l'après-midi, il y aura peut-être un peu moins d'humidité, donc un peu plus de soleil. À coup sûr, près de l'Atlantique, dans la moitié sud, là, ce soleil devrait s'imposer. Et puis du centre, au nord et au nord-est, bon, on sera toujours un peu aléatoire. Mais on pourrait avoir de bonnes surprises demain après-midi quand même, avec de la lumière quasiment partout. Les températures bougeront pas. On se rapprochera des gelées le matin, autour de 10 degrés dans la moitié nord l'après-midi, un peu moins dans le nord-est et autour de 15 degrés dans le sud. C'est la même chose pour la journée de samedi. Et à partir de dimanche, on change de régime. On va passer dans un courant de nord avec une première perturbation qui va apporter de nouveau des nuages, de la pluie, un petit peu de neige en montagne, mais la première ne va pas être très active. Lundi, on va de nouveau avoir du temps un peu plus frais et un peu plus sec. Et puis entre mardi et mercredi, cet air de plus en plus froid va s'accompagner d'humidité. Et donc, il est probable qu'à partir du milieu de semaine prochaine, on ait vraiment des températures en nette baisse avec probablement de la neige à basse altitude.
Tiens.
Pluie et neige à basse altitude entre mercredi et jeudi prochain. C'est encore un petit peu loin. Donc on va affiner tout ça, mais retenez le refroidissement assez net qui nous attend, ça semble se confirmer.
Voilà, la froidure est annoncée par Louis Baudin. Donc vous préparez vos anoraks, vos écharpes.
Voilà, la deuxième couche, le deuxième pull.
Et tout le toutim, nous on va partir en Chine.
RTL autour du monde.
Et nous vous emmenons ce matin en Chine, le dernier grand pays à appliquer la stratégie zéro Covid. Une reprise de l'épidémie ces dernières semaines inquiète notamment les autorités chinoises qui sont en train de prendre des mesures mais vraiment exceptionnelles pour protéger Pékin. On retrouve Stéphane Pambrin sur place. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
À quoi ressemblent ces nouvelles mesures ?
Écoutez, près de 2 ans après l'émergence de la pandémie, et alors que près de 80% de la population chinoise est vaccinée, eh bien notre vie quotidienne ici reste vraiment compliquée. Il est quasiment impossible de quitter ou de rejoindre la Chine, et la population doit se plier à des précautions extrêmes. On compte moins de 1100 nouveaux cas en Chine depuis un mois, contre 80 000 chaque jour aux États-Unis. Et pourtant, le virus est traqué ici à chaque coin de rue, avec une obsession protégée à tout prix Pékin. Depuis hier, tous les voyageurs en partance pour la capitale doivent produire un test négatif datant de moins de 48 heures. Et ce, quel que soit leur lieu de départ. Les vols en provenance de villes avec des malades sont désormais supprimés. Il y a des checkpoints à l'entrée de Pékin. L'objectif, c'est évidemment d'éviter une reprise de l'épidémie. Alors que se déroulent ici les Jeux Olympiques d'hiver, ce sera à partir du 4 février prochain. À Pékin encore, tous les enfants ont été dépistés, y compris ceux du lycée français et des écoles internationales, sans que l'on ne demande l'autorisation des parents. Il faut d'ailleurs venir à l'école maintenant avec un sac de couchage au cas où les enfants seraient confinés sur place.
On est en pleine paranoïa puisque les autorités sanitaires traquent le virus jusque sur les colis.
Oui, la ville de Pékin affirme que des traces du virus ont été retrouvées sur des colis. Cela alimente d'ailleurs le scénario que l'on entend beaucoup ici d'un virus provenant de l'étranger. Ces derniers mois déjà, on l'aurait retrouvé sur des cargaisons en provenance de Russie ou d'Amérique du Sud. Écoutez, Peng Xingruo, elle est responsable du bureau de prévention des épidémies à Pékin.
De nombreux colis ont été testés positifs dans plusieurs endroits de la ville. Le virus a été détecté sur l'emballage extérieur. Nous avons mis en place des mesures de contrôle pour remonter à la source de la contamination. Il faut maintenant dépister tous les colis et les désinfecter.
Alors, 34 000 livreurs ont déjà été dépistés à Pékin pour la seule journée d'hier. Et même les agriculteurs qui approvisionnent Pékin en fruits, légumes et viandes doivent être dépistés pour vendre ici leurs marchandises. Ça vous donne une idée de l'ambiance, de la paranoïa qui s'est emparée de la capitale.
Mais Pékin n'est pas la seule ville de Chine à prendre des mesures extrêmes ?
Effectivement, les deux tiers des provinces chinoises ont enregistré une reprise des contaminations depuis un mois, avec parfois des mesures extrêmes. Dans le nord du pays, la ville de Heihei, par exemple, offre une récompense de 13 000 euros à celui qui pourra identifier la source du nouveau cluster et la dénoncer aux autorités. À Chengdu, une douzaine de personnes se sont échappées d'un quartier en quarantaine en faisant un trou dans les barbelés. Ils risquent 7 ans de prison et la police est à leur trousse. Et puis, par exemple, à Disneyland Shanghai encore, ce sont 34 000 visiteurs qui ont été enfermés dans le parc après la découverte d'un cas contact. Ils ont été dépistés sur place et ont passé dans le parc une bonne partie de la nuit.
Et bien voilà, nous sommes prévenus pour nos prochaines vacances en Chine. Merci Stéphane Pambrun, correspondant d'RTL à Pékin. Dans un instant, Isabelle Choquet pour la face cachée de la Une. Et on va parler de quoi, Isabelle ?
Je vais vous raconter la vraie histoire de Thanksgiving.
Ah, ça m'intéresse, à tout de suite.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
8h38. Ce matin, Isabelle, nous parlons de la fête de Thanksgiving qui sera célébrée dans quelques jours aux États-Unis.
Oui, et cette année, c'est le 400e anniversaire de cette fête qui rappelle le premier repas réunissant les colons anglais et les Amérindiens. Un moment de partage, transculture avec dinde et coiffe à plumes. Sauf que ça, ben, c'est l'image d'Épinal, oui, version anglaise. Aujourd'hui, les Amérindiens aimeraient bien faire entendre leur histoire et c'est pas la même. J'ai lu ça dans le Courrier international. La première tribu rencontrée par les pères pèlerins, ce sont les Wampanoags, qui signifie le peuple de la première lumière. Au début du XVIIe siècle, ils étaient répartis dans quelques dizaines de villages dans le sud du Massachusetts. Ils chassaient, ils pêchaient, ils cultivaient le maïs. Ils se battaient depuis un siècle à peu près avec les explorateurs européens, mais ils commerçaient aussi avec ces aventuriers au visage pâle. Et puis, en 1620, le Mayflower touche terre du côté de Plymouth et, en les voyant descendre du bateau, les Wampanoags comprennent que cette fois, c'est pas pareil. On ne vient pas avec femme et enfant quand on se prépare à se battre. C'est ce que dit Paula Peters, qui est spécialiste de l'histoire amérindienne. Pendant des mois, les Wampanoags observent les pèlerins. Au cours du premier hiver, la moitié meurt de faim, de froid et de maladie. Mais le peuple Wampanoag a été affaibli lui aussi par les fièvres apportées d'Europe. Et puis, les Anglais ont des armes à feu, des mousquets. Les Indiens n'ont que des arcs et des flèches. Bref, mieux vaut pactiser. Le premier contact est établi au printemps 1621. Les Wampanoags apprennent aux colons comment planter des haricots et des courges sur des monticules entourés de maïs, comment utiliser les restes de poissons comme engrais. Et à l'automne suivant, les pèlerins réalisent leur première récolte. Alors pour célébrer l'événement, ils organisent une grande fête de la moisson. Mais les Wampanoags ne sont pas invités. Pour le partage, on repassera. Ce qui se passe, c'est qu'au cours de la fête, les Anglais tirent en l'air pour manifester leur joie. En entendant ça, les Indiens se disent « ça y est, c'est la guerre ». Alors ils se précipitent, une centaine de guerriers débarquent armés jusqu'aux dents. Et puis ils se rendent compte que, en fait, c'est la bamboche. Et du coup, ils décident de participer. Ils s'incrustent un peu, mais ils apportent aussi 5 pièces de gibier. Pas de dinde et pas de coiffe à plumes non plus. Les Wampanoags n'en portaient pas. Ils avaient des crêtes comme les Mohicans avec des épines de porc-épic. On est bien loin de ce que les petits Américains apprennent à l'école. Thanksgiving nous fait passer pour des imbéciles, dit Mère Ours. C'est l'une des gardiennes des traditions. Ça donne l'idée que les pèlerins nous ont donné une vie meilleure parce qu'ils nous étaient supérieurs. En fait, selon elle, une loi punissait de mort le fait d'apprendre à lire et à écrire à un Indien. Notre accueil amical des pèlerins a sans doute été notre plus grande erreur. Ça, c'est ce que dit Frank James. C'est un célèbre défenseur des droits amérindiens. En 1970, il a tenté de rétablir certaines vérités sur Thanksgiving. Oui. Mais les organisateurs du 350e anniversaire ont refusé. Alors, il a créé une journée du deuil national. Et c'est ça que certains Wampanoags célébreront jeudi prochain. Thanksgiving, le traumatisme des Amérindiens. Article du Washington Post à lire cette semaine dans Courrier international.
On va regarder Thanksgiving d'un autre œil grâce à vous. Merci beaucoup Isabelle Choquet. À demain matin.
À demain.
Vous êtes comme ça ouvre ce matin la porte du garage d'un jeune antiquaire bordelais, passionné de vieilles voitures, mais pas n'importe lesquelles. Celles fabriquées par une entreprise bordelaise, très exactement entre 1902 et 1932. Bonjour Denis Granjou.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous.
Clément Brouze a donc retrouvé un des derniers modèles existants encore de cette marque et il a passé 2 ans à la rénover. Il nous embarque aujourd'hui dans une des toutes premières sorties de cette magnifique voiture dans le quartier bordelais de la Bastide, sur la rive droite de la Garonne, où était implantée l'usine qui employait près de 1500 salariés.
Oui, vous connaissez Retour vers le futur avec la DeLorean. Eh bien, nous, avec Clément, on va faire Retour vers le passé avec une motobloc. Avant de partir, je fais son plein d'eau. Tout y soit, voilà, c'est bon. Hop, bouchon de radiateur qui va me permettre d'indiquer au fur et à mesure de notre roulage la température du moteur.
Il est classe, le...
Ouais, c'est très très beau. Il y avait véritablement une culture du bouchon de radiateur. Maintenant, je vérifie
Mon arrivée d'essence, je titille légèrement mon carbu. Alors ça, c'est le terme tout à fait précis et technique de la chose. Alors, démarrage à la clé, donc c'est-à-dire au tableau de bord, j'ai mon contacteur à clé qui me verrouille la commande d'éclairage, mais qui me verrouille bien entendu le démarreur. J'ai une petite clé triangulaire qui vient s'insérer dans mon commutateur. Face à moi, j'ai mes pédales, freins et embrayage qui sont à chaque extrémité. Et l'accélérateur est au milieu, c'est un rouleau. Sur chacune des deux pédales à chaque extrémité, j'ai les croissants de Bordeaux. Ils estampillés jusqu'à leur pédale le logo de la marque. Je mets mon frein à main pour être sûr et je me rends compte que j'ai oublié de mettre la batterie. Donc on recommence. Contact. Je vérifie en effet, mes voyants s'allument. Contacteur au pied.
Et donc là, elle est partie pour un voyage dans le temps, finalement.
Je pense, oui. Déjà un voyage dans le quartier, après on verra pour le temps. Ça va. Premier coup.
Et dans le quartier, signe. Comment ils réagissent, les gens? Bah, ils voient passer la voiture.
Ils savent pas trop s'ils l'admirent, s'ils la regardent avec interrogation. Qu'est-ce que c'est que cet engin?
Mais elle roule, hein.
Elle roule très très bien, elle roule très très bien. La marque avait su faire sa réputation en ayant étudié des voitures qui avaient la capacité de monter correctement les côtes. C'était un gage de qualité pour l'époque. Ah. Oui, on a calé. Mais ni vu ni connu.
Clément, on va profiter d'une petite halte pour raconter l'histoire de cette marque.
Donc Motobloc, marque bordelaise, née en 1902. Motobloc, précurseur par rapport au bloc moteur, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé un brevet dans un seul et même ensemble, le moteur, l'embrayage et la boîte de vitesse.
Avant Ford aux États-Unis.
Avant Ford aux États-Unis, et tout ça est né à Bordeaux. Il est vrai que Motobloc a été vraiment l'un des précurseurs dans un tas de choses.
Bon, on repart?
Allez, on est reparti.
Donc là, il n'y a pas clignotant, là.
Donc là, il n'y a pas clignotant, il y a mon bras gauche qui va faire le job.
Et sachez Yves que cette S32 Motobloc est la seule qui existe encore dans le monde sur les 15 000 fabriquées au total avec sa couleur originelle, le rouge Bordeaux.
Nom de Dieu.
Vous êtes comme ça dans la région bordelaise avec vous Denis Grandjoux. Merci beaucoup dans un instant Laurent Gérard et toute son équipe.
Bonjour, c'est Stéphane Woodstock.
Et bonjour, c'est Steven Bellery.
Laissez-vous tenter.
Au programme, deux monstres sacrés ce matin.
Tout d'abord, les confidences de Catherine Deneuve, de retour mercredi prochain dans le film De son vivant avec Benoît Magimel. La comédienne revient pour la première fois sur l'accident cérébral dont elle a été victime durant le tournage, mais évoque aussi son envie intacte de cinéma.
Eddie Mitchell, bientôt 80 ans, revient lui en mode country rock, 60 ans de carrière, les casinos, l'écriture, le rap et le rock. Schmoll se confie aussi.
Monsieur Eddy, Mademoiselle Deneuve, c'est l'affiche du jour dans Laissez-vous tenter.
Rendez-vous à 9h.
Avec un peu d'amour.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Yves Calvi,
RTL Matin.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi et bonjour à tous. L'heure des pros, la célèbre émission de Pascal Pro sur CNews, fêtera bientôt ses 5 ans. Une émission qui doit son succès à son animateur vedette, qui vous pose aussi de nombreuses questions sur RTL, dont les auditeurs ont la parole. Nous l'avons suivie pendant toute une journée. Elle commence à 7h du matin. Pascal Pro arrive dans les locaux de CNews et se rend à la machine à café.
Rien de tel qu'un bon café pour bien commencer la journée, mais cette machine ne propose que du café Arabica. Le café Arabica vole-t-il son travail au café français? Je pose la question à la machine à café.
14h, après avoir enchaîné l'heure des pros sur CNews et les auditeurs ont la parole sur RTL, Pascal Pro se rend au restaurant pour un déjeuner bien mérité.
J'ai envie de commander un gigot à l'ail. Mais s'agit-il vraiment d'un gigot à l'ail ou d'un gigot halal? La restauration est-elle menacée par le grand remplacement? Je pose la question au serveur.
16h, Pascal Pro prend connaissance des dernières informations à la radio pour préparer l'heure des pros 2.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils racontent vraiment n'importe quoi à la radio publique. Avec notre agent en plus. France Info ne devrait-elle pas plutôt s'appeler France Impôt? Et France Culture, Cancel Culture? Je pose la question à mon transistor.
19h, Pascal Pro entame sa 6e heure de direct de la journée avec l'heure des pros 2.
Bonsoir Laurent Joffre, mais n'avez-vous pas honte? Je vous pose la question et si vous ne répondez pas oui, j'ai honte, je demande pardon, j'enlève sa muselière à Ivor Youfol, il va vous mordre.
21h, Pascal Pro quitte enfin CNews pour regagner son domicile.
J'ai commandé un chauffeur Uber pour rentrer chez moi. Mais mon chauffeur s'appellera-t-il vraiment Uber ou bien Abdel ou Mohamed? Je pose la question à mon application.
21h30, Pascal Praud arrive enfin chez lui.
Chérie, tu as fait des pommes sautées pour le dîner? Je pose la question à ma femme.
22h, Pascal Praud se détend en famille en regardant la télévision.
Sur quelle chaîne est diffusé le débat du jour avec Éric Zemmour? Je pose la question à mon Télé-Z. Le Z de Télé-Z veut-il dire Zemmour? Je pose la question et je m'auto-fatigue, je vais me coucher.
C'est le moment de tourner une page de publicité avec François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise, meilleur parti politique de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, Hidalgo, elle a le melon, hein. Elle veut que vous désistiez pour elle.
Mais tais-toi donc Ruffin, personne n'a un plus gros melon que moi.
Oui mais Jadot il raconte que des salades sur nous, comme quoi qu'on serait des dangereux communistes.
T'occupe, je vais te bouffer tout cru ton haricot vert.
Et les fans de Zemmour, ils veulent vous envoyer des tomates pourries lors de votre prochain meeting.
Je vais leur foutre des pêches et des marrons à ceux-là.
Oui, sauf que Zemmour, il est à 18% et vous, vous êtes à peine à 10%. On est mal, patron, on est mal.
La France Insoumise à 10%, le vrai score de l'extrême gauche. À la France Insoumise, les scores sont bas, même en période électorale. Plus d'informations sur LFI.fr avec le code Staline. Sans attendre les fêtes de Noël, Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, vient de dévoiler une version très personnelle de Silent Night, Douce Nuit en français, en duo avec le ténor Amaury Vassili. Bonjour Jean-Baptiste Guégan.
Bonjour et joyeux Noël madame.
Si.
Et bonne fête aussi à toi, Père Noël, si tu m'entends, tout là-haut, avec tes jujus par milliers, et tes chevaux avec des cornes dessus et des clochettes autour du cul.
Je crois que ça s'appelle des rennes. Mais vous êtes très en avance sur le calendrier, Jean-Baptiste.
C'est vrai, mais j'ai fait des calculs. Si je sors ma chanson pendant l'Avent, je risque d'arriver après. Après l'Avent. Tandis que si je sors ma chanson avant l'Avent, j'arrive juste après. Donc pendant l'Avent. Oh, j'y comprends plus rien à mes calculs d'avant.
Oui, oui, bon, c'est pas très grave. L'important, c'est que ce nouveau duo avec Amaury Vassili est très beau.
Ah bon? Vous trouvez qu'il est très beau, Amaury?
Non, le duo.
Ah, au tout début, je voulais faire le duo tout seul. Mais mon manager m'a dit, les duos, c'est mieux à deux.
Eh ben oui.
D'ailleurs, je travaille avec un nouveau sosie vocal. C'est Jean-Michel Guéjonas.
Ah, voilà.
Je vous l'appelle.
Ah ben oui, volontiers. Bonjour Jean-Michel Guéjonas. Mais écoutez, c'est frappant la ressemblance. Merci beaucoup Jean-Michel Guéjonas. Oui, d'accord, merci beaucoup Jean-Michel. Bonnes vacances au bord de la mer.
Je travaille aussi avec une autre moitié de duo.
Oui.
C'est Jean-Vincent Guédelherme. Vous connaissez?
Ah ben, ça me dit quelque chose, oui, bien sûr.
Eh ben, il est en ligne, lui aussi.
Ah, alors Jean-Vincent Guédelherme, ça se passe bien, ces duos avec Jean-Baptiste Guégan?
On écoute du barbelivien. Il chante très fort et moi je dis rien. On a une relation comme ça, JB Guégan et moi.
C'est vrai qu'un duo comme ça, c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin.
Il se prend pour Johnny Hallyday, il voit pas que l'eau du robinet. On est tous les deux différents, moi et JB Guégan.
Je comprends. Vous ne vous offririez pas un petit trio avec Jean-Michel Guéjonas et vous?
Oh oui, oh, mais attends, parce que je suis un peu emmêlé. Un trio, c'est un duo à trois.
Voilà.
C'est encore plus difficile. Mmh. Hein? Mmh. Mais allez, on va essayer.
Allez.
Tourner le temps à l'orage. Revenir à l'état sauvage. Sentir le vent qui se déchaîne. Battre le sang dans nos veines. Monter le son des guitares et le bruit des motos qui démarrent.
Ah, merci, quelle magnifique énergie. Merci beaucoup, messieurs.
Merci. De rien, c'est le thé vert qui me donne la pêche. Oh, rock'n'roll, no rock'n'roll.
Ah là là, quel bonheur. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve bien entendu sur le site rtl.fr. Alors c'est le moment ou jamais de vous annoncer la parution d'un livre absolument formidable de Laurent, Mon almanach gourmand, avec une préface de Georges Blanc. En fait, ce sont les 30 années sur les routes de France qui ont permis à Laurent de créer des liens d'amitié et de savourer ces instants d'exception avec de très nombreux chefs. Franchement, vous vous régalerez. Il y a des photos magnifiques, des recettes formidables. Ma grand-mère, les moules marinières, les dictons du jour. Vous allez croiser des visages que vous avez beaucoup aimés. Franchement, c'est un moment délicieux, de bonne humeur, avec des illustrations, beaucoup, beaucoup d'humour. Bref, une balade gourmande, comme on les aime.
Comment ? Il y a vous dedans ? Belle photo.
Il y a une belle photo, nous sommes tous à table. La bonne équipe, bien sûr, qui entoure tous les jours Laurent Gérard. Voilà, le livre paraît aujourd'hui aux éditions du Cherche Midi. Laurent Gérard, Mon almanach gourmand, préface de Georges Blanc. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Je viens de le feuilleter avec un infini plaisir. Dans un instant, on va retrouver Cyril Lignac et une jolie recette là aussi. Cyril est présent dans le livre. Tiramisu, crème de marron. Oui, ça va vous plaire, moi je vous le dis.
RTL Matin. Yves Calvi.
Bonjour Cyril.
Bonjour.
Alors là, je suis chaud comme la braise. Hortense, c'est déjà un très joli prénom. Elle vit à Strasbourg, c'est une très belle ville, et elle voudrait faire un tiramisu à la crème de marron. Alors là, je dis oui. Mais comment éviter que ce soit trop sucré, et surtout comment faire en sorte que l'on sente bien le goût du marron? C'est ça la vraie question.
Alors déjà, c'est amusant parce que j'aurais pas pensé à faire un tiramisu à la crème de marron. J'aurais plutôt pensé à faire des Mont Blanc, une pavlova, des choses un peu dans cet esprit-là, mais pas forcément un tiramisu. Alors je me suis amusé et ça marche super bien. Donc on prend les biscuits à la cuillère traditionnelle, ça on va les tremper dans le café, on le garde.
On maintient
le café.
Oula, café, ça tue pas la crème de marron.
Pas du tout. Café marron, et je vais même rajouter des petites clémentines, parce que marron clémentine ou marron cassis,
ça marche
super bien. Et comme elle me demande que ce soit pas trop sucré, on va pimper un peu tout ça pour apporter de l'acidité. Donc, les biscuits dans le café, normal, 70 g de crème de marron avec 3 jaunes d'œufs, et on met 360 g de mascarpone, jusque-là, c'est normal.
D'accord.
On mélange bien, et on va l'alléger avec des blancs montés en neige.
D'accord.
Et on va quand même ajouter un tout petit peu de sucre, parce que j'ai quand même besoin de meringuer les blancs.
D'accord. Donc, 3 blancs en neige qu'on monte avec
52 grammes de sucre. Okay. C'est vraiment
c'est
très
raisonnable.
Peu.
Non,
c'est très
raisonnable.
Peu. Et là, on mélange, et ensuite, on mélange bien entendu notre crème de marron avec le mascarpone, et on l'allège avec les blancs montés en neige. Donc, comme ça, on a cette crème très onctueuse, soyeuse et délicate. Et ensuite, on va commencer à monter les strates. Si on veut désucrer, on prend de la crème du cassis en purée. Et là, on va tartiner café, cassis et crème de marron. Mm-hmm. Et on monte des strates. Ce qui va nous permettre à la dégustation d'avoir ce côté très vif du cassis et la richesse de la crème de marron avec le café. C'est délicieux.
Ah bah formidable.
Et si on ne met pas de cassis, ce qui marche très bien avec le marron, c'est bien entendu la clémentine. Ah. J'oubliais de dire que dans la crème de marron, j'avais mis un petit peu de rhum.
Ah oh bah oui, ça
voilà.
Chauffe, oui.
Ça, c'est à discrétion, comme on dit chez nous. Chacun fait comme il veut. Un petit peu de crème, un petit peu d'alcool, c'est très très bon.
On va se séparer sur ce sourire qui était bien agréable. Merci beaucoup Cyril. Votre recette est à retrouver sur rtl.fr. On vous dit à demain.
À demain.
Il est 9h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Dominique Tenza.
La maltraitance animale au Parlement, la majorité en avait fait l'une de ses priorités. Le texte doit être définitivement adopté tout à l'heure. Il prévoit entre autres l'interdiction de la vente de chiots et de chatons en animalerie ou encore la fin des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums. 10 000 euros d'amende requis hier contre Éric Zemmour pour ses propos tenus contre les migrants mineurs qu'il avait qualifiés l'an dernier de voleurs, de violeurs et d'assassins. Son avocat plaide la liberté d'opinion. Payer moins cher, quitte à polluer davantage. Le choix qui interpelle celui du groupe Ascoval. L'entreprise envisage de déménager son aciérie du Nord, qui fonctionne avec des fours électriques trop chers, vers les hauts fourneaux allemands, alimentés eux par du charbon. Alors que les carnets de commandes sont pleins, les salariés dénoncent une ineptie économique et écologique. Et puis ce chiffre accablant, 1 élève sur 10 en France serait victime de harcèlement scolaire. 1 sur 5 affirme même avoir été confronté à du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Ce jeudi a lieu la journée nationale contre le harcèlement scolaire. On rappelle le numéro 30 18, numéro court destiné aux victimes de violences sur Internet.
Dominique Tenza.